Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'avais un débat, et je fais un débat depuis plusieurs jours là dans ma tête tout seul, et j'aimerais le partager avec vous.
Tu débats tout seul dans ta tête, toi.
Tout seul, je suis un vrai fou.
Je ne vais pas vous révéler le plan des pyramides, mais bon.
Attention, ce ballon dans la surface, il va être lobé. Oh, c'est le but fabuleux. Le coup de génie de Damien Perkis, le verre de toujours. On vous l'avait dit, Damien Perkis, son rêve, c'était bien sûr marquer un jour au chaudron face à son équipe de cœur.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After. Avec ce soir, autour de la table, Walid Echarchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
En face de toi, Simon Lutin. Salut Simon.
Salut Nico, salut tout le monde.
Et on accueille pour la première fois dans Génération After Damien Perkis. Salut Damien.
Salut Nico, salut tout le monde.
Plaisir de t'accueillir ici.
Bienvenue Damien.
Auditeur de l'After, je crois.
Oui, ça m'arrive. J'entends les débats houleux, c'est toujours intéressant.
Bon, j'espère que t'écoutes de 20h à minuit, hein, même si t'as dû grandir aussi avec l'After. Historique de Gilbert.
Bien sûr.
T'écoutais quand t'étais joueur ou pas?
Oui, ça m'arrivait, ouais, franchement.
Je sais pas, que les footballeurs n'écoutent jamais les émissions
foot. C'est faux, ça.
Ils lisent pas la presse.
Ils lisent pas
la
presse. C'est
mytho, ça.
Bien sûr, quand il y avait les notes encore à l'équipe, tout le monde regardait. C'était les premiers journaux qui étaient ouverts dans les vestiaires.
Tu faisais pas comme Jérôme, hein, t'appelais pas le mec qui t'a mis 3 sur 10.
Non, mais j'avais eu des discussions assez intéressantes avec Johan Aubois à l'époque.
Oui.
Et c'est très intéressant parce que justement il expliquait la difficulté de noter 22 joueurs.
Ah, tout seul en plus. En fait, ils sont deux sur les gros matchs. Exactement.
Ouais.
Ta meilleure note, c'est quoi dans ta carrière? Tu as un souvenir?
Je sais pas, je pense que ça doit être 7 ou 8, je pense.
C'est bien
7, ouais, je 7. Pense un 7. Ouais.
7. C'était où, à Sochaux?
Ouais, à Sochaux.
À Sochaux.
Et quand t'étais en Espagne,
quand je marquais des buts.
Quand t'étais en Espagne, tu regardais aussi?
En Espagne, ouais, mais c'était moins parce que c'était avec notamment ils le font avec des espèces de pics.
D'accord,
oui, c'est ça. Plutôt là, moins, ouais, c'est différent, la notation est différente.
Bon, Damien Perkis est avec nous jusqu'à 22h, 16 ans de carrière professionnelle, 7 clubs, 4 pays, 3, Saint-Etienne, Sochaux. Et quand on ferme les yeux, on pense à quel maillot?
Sochaux.
Damien Perkis, évidemment.
Ouais,
Simon, t'es d'accord?
Sochaux, évidemment.
Ouais. Sochaux.
Et un peu le Real Betis.
Le Real Betis aussi, quand même. L'expérience en Espagne. Toronto aussi.
Ouais.
Belle expérience, Toronto.
Très belle expérience. Après, je pense qu'il faut le faire quand on est un peu plus jeune.
Ouais.
Personnellement, je l'aurais fait
si j'étais
plus jeune. Parce que vie de famille compliquée de ramener tout le monde là-bas. Et puis après, c'était plus de pression du résultat, plus rien. Donc c'était un peu trop dilettante.
Et puis Nottingham Forest aussi, j'avais oublié ça.
Ouais, j'ai fait un an avec Philippe Montagnier et Serge Romano qui m'avait appelé quand j'étais à Toronto justement.
Et puis Gazélec pour finir. Et bien sûr, international polonais.
Oui.
Euro 2012.
C'est ça, de 12 ou 13 sélections, je crois.
14, ouais.
14 sélections, ouais. Même précisément. Mm-hmm. Avec Blachnikovski, on en parlait tout à l'heure, Lukas Piszczek, Robert Lewandowski, un certain Ludo Bragnac aussi, apparemment. Mm-hmm. Il fait une place dans la sélection.
Mm-hmm. Ouais, il m'avait préparé le terrain.
Exactement. T'es avec nous, on est heureux de t'accueillir. Ce soir, dans Génération After, on va parler de Marseille. Dans moins de 10 jours, l'Atalanta, demi-finale d'Europa League. Ce soir, on pose le débat parce qu'on l'a fait depuis plusieurs jours déjà à RMC. C'était chaud. L'OM a-t-il les moyens d'être champion d'Europe, tout simplement? On vous attend également au 32-16, supporters marseillais. Demain soir, Monaco-Lille, match pour la qualif en Ligue des Champions. Qui est le mieux armé pour prendre la deuxième place? Là aussi, on vous attend, supporters monégasques et lillois, au 32-16. Lens et Lewaï sifflé par une partie des supporters lensois samedi soir. Le public du RC Lens est-il trop dur avec l'attaquant? Et puis à 21h, Avid Walid qui veut faire son mea culpa à propos de Vitinha, le Parisien. On t'écoutera. Simon, toi, c'est très clair, tu veux voir Barcola à l'Euro et il n'y a pas de débat. Et Damien, tu nous parleras aussi d'Albert Riera, entraîneur des Girondins de Bordeaux, que tu as croisé cette saison en bord terrain. C'est pas un grand souvenir, comme beaucoup de journalistes, comme même beaucoup d'entraîneurs de Ligue 2. Bordeaux qui joue ce soir. D'ailleurs, on va suivre là le multiplex Ligue 2, hein, important dans la course à la montée, dans la course au maintien. Ça démarre à 20h45. Ce sera dans Génération After. Et puis à 22h, Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
Ce soir, Daniel Riolo est là, tout comme Florent Gautreau.
Ouh.
Je ne peux pas vous promettre une émission 100% sans Luis Enrique. On va essayer.
Ah, parce qu'hier c'était chaud.
Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de PSG au programme. Si.
Ouais, ça peut toujours revenir.
Mais t'as raison, ouais. Tous les gens mettent Luis Enrique.
Ça repart par la fenêtre.
Dans les débats, ils prennent tout le temps un exemple. Non, mais c'est comme Luis Enrique.
Bon, non, mais
ça repart.
On va quand même parler un peu de Paris, parce que demain il y a les matchs. Donc
oui,
on va parler des matchs de Ligue 1 importants demain à Monaco, Lille notamment, PSG, Lorient, Nice, Marseille. Et puis Nantes, Flo veut parler de Nantes, parce qu'il trouve que c'est bien triste ce qui se passe à Nantes, qu'il n'y a rien qui va à Nantes, quoi, en gros. On va en parler. La Ligue 2, bah, on a promis hier qu'on ferait du Bordeaux, donc on va le faire ce soir. Bordeaux, il n'y avait plus de papier toilette, ça y est, il est revenu. Maintenant, il n'y a plus de jardinier. On verra s'il y a toujours des joueurs. Il n'y a plus de supporters non plus ce soir, pendant un petit moment,
a priori. Ouais, c'est un quart d'heure.
Il n'y a rien qui va à Bordeaux, là non plus, donc on va en parler. Et puis on a Sébastien Bassong ce soir avec nous, qui était là déjà
très bon,
pendant nos After Cannes.
Magnifique.
Et qui a créé un super podcast d'ailleurs.
Ouais, avec Quentin Frati. Ouais,
et Quentin Westberg,
ouais, que j'ai connu.
Génération 86, ballon main corps.
Exactement. Ah ouais. Voilà, j'ai écouté cet après-midi.
Très bien ces petits. Ouais.
Ouais. INF La Fontaine. Ouais. Mais ouais. T'étais deux ans avant avec La Fontaine. Ouais,
j'étais en troisième année, ils sont arrivés en première année.
Tu les as croisés. T'as croisé Atem Ben
Arfa.
Atem Ben Arfa arrivé avec La Fontaine.
Voilà, Abou Diaby. Ils sont devenus de bons hommes. Voilà. C'était des bons garçons, ils sont devenus des bons hommes.
Ben voilà, ben alors comme il est en Angleterre, Sébastien, on va parler foot anglais, d'autant que Julien Laurence est de passage à Paris. Donc on va faire une heure de foot anglais ce soir avec pas mal de petits sujets.
Julien Laurence est en plein
vrai à Paris, incroyable.
Oh, le frérot, ouais, il vient.
Oui, c'est pas un journaliste virtuel.
Ah,
il existe vraiment.
C'est pas une IA.
Non, c'est pas une IA. Ni un hologramme.
Voilà, donc à tout à l'heure, 22h.
À tout à l'heure, mon cher Gilbert, avec Flo et Daniel.
On a eu du grand Daniel hier. Hein. Encore beaucoup d'exercices de contorsion.
Vas-y. J'aime bien l'expression.
Ouais.
Très souple, hein, Daniel.
Très
extrêmement souple.
Très souple, le plus souple.
Ah ouais, c'était le plus souple de tous. Hein.
Ah enfin, oui, vraiment. Encore un très très bel exercice, c'est le plus fort.
Vous pouvez écouter le podcast.
Vraiment, hier, c'est très très fort.
Dès 22h10,
très fort.
Souplesse totale.
Ah non, non, mais
il touche.
Il va chercher la jambe, il va tout chercher. Hein.
Le talon
c'est
debout.
C'est impossible à faire. Ne reproduisez pas ça chez vous.
Ça peut être très dangereux.
C'est que pour les professionnels.
Bien sûr. Bon, c'est parti pour Génération After. Marseille sur le point d'attaquer à une séquence décisive. Trois matchs à domicile en 8 jours. Nice demain, Lens dimanche et bien sûr l'Atalanta jeudi prochain, demi-finale aller de Ligue Europa. Tiens, quelques infos d'abord à vous donner. Bonne nouvelle, Jonathan Clauss est de retour. Il sera dans le groupe pour Nice dès demain soir. Chancel Mbemba est forfait, mais il reviendra bientôt. Toujours pas de retour, bien sûr, de Bilal Nadir, Valentin Rongier, Babo Meite et Quentin Marlin qui, lui, alors, pas impossible qu'il soit dispo hein, pour le match aller contre l'Atalanta Bergame. Question qu'on se pose ce soir, certes, elle paraît prématurée, mais on voulait la faire parce qu'on l'a déjà beaucoup posé en off dans les coulisses de l'After. L'OM peut-il gagner la Coupe d'Europe, l'Europa League? Vous nous appelez, supporters de l'OM, au 32-16 et notamment pour évoquer cette séquence de 8 jours qui arrive pour l'OM. Alors, votre avis là-dessus, tiens Simon, je commence avec toi. Est-ce que ça te paraît fou d'imaginer Marseille déjà sortir l'Atalanta et Marseille, par exemple, battre le Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa?
J'ai l'impression qu'on a raconté la même histoire sur l'OM toute la saison, à savoir après beaucoup d'espoir, suite à un recrutement qu'à l'époque on jugeait intéressant et que maintenant on juge catastrophique. Moi, j'entends beaucoup de gens qui, si on les entend, si on les écoute, me disent que l'OM a une équipe en bois de cagette, qu'il n'y a rien à en tirer. On ne les voyait pas passer contre Villarreal, on ne les voyait pas passer contre Benfica. Si tu regardes le tableau final de la Ligue Europa, a priori, bon, bah, ils n'ont aucune chance. C'est vraiment l'OM, l'intrus. Moi, je ne les vois pas passer non plus contre l'Atalanta. Maintenant qu'on a dit ça, je ne vais pas ressortir les poncifs, me vautrer dans les clichés à ces altitudes-là. Tout est possible quand tu démarres une demi-finale. Finale de Coupe d'Europe au Vélodrome, quelle que soit l'équipe face à toi, tu pars avec un avantage. Donc tout va dépendre de ce qu'ils mettent dedans. Il y a peut-être l'effet, tu sais, est-ce qu'ils sont sur les rotules? T'as l'impression quand même qu'ils jouent avec l'énergie, hein, les mecs, depuis, c'est de toute façon ce que Gasset était censé apporter, qu'il a très bien apporté. Est-ce qu'il y aura l'adrénaline, c'est l'effet colonie de vacances? Tu sais, on sait qu'on se reverra pas l'année prochaine, on a passé un beau moment, une belle aventure, des beaux souvenirs, est-ce que ça va les porter? Ils ont un Aubameyang qui confirme que c'est un joueur premium, alors que je le voyais plutôt décliné, moi, en cette fin de saison. Bon, moi, je fais partie des optimistes, mais j'entends les arguments qui m'expliquent qu'il n'y aura ni Europe par le championnat, ni trophée en Ligue Europa. A priori,
on t'as pas de réponse tranchée, Walid?
Non, moi, j'y crois. Mais
tu veux que je te dise s'ils vont gagner la Ligue Europa ou ils vont pas gagner la Ligue Europa?
J'y crois absolument pas, j'y crois.
J'y crois. Bah, si j'ai un avis tranché, oui, j'y crois.
J'y crois parce que l'Europa League est une compétition spéciale, que les fameuses dynamiques de saison ne sont pas une vérité absolue pour gagner une compétition ou non. On se le disait un petit peu dans la rédaction tout à l'heure. Séville gagne la Ligue Europa l'année dernière en faisant une saison catastrophique. Ils terminent 12e de Liga et à un moment donné dans la saison, ils étaient même aux portes de la relégation. Villarreal, quand ils gagnent contre Manchester United, termine 7e de Liga. Francfort, quand ils gagnent l'Europa League, ils sont 11e de Bundesliga. Donc c'est assez commun, hein, les équipes en difficulté en championnat qui font entre guillemets all-in, où on
en tout cas qui trouve une oxygène dans cette compétition pour aller au bout. Après, il faut respecter bien évidemment l'Atalanta, le Bayer Leverkusen qui fait une saison historique et la Roma qui sont a priori trois équipes bien supérieures à l'Olympique de Marseille collectivement dans leur référence. L'Atalanta vient de sortir Liverpool, même s'il y en a qui diront que c'est une équipe B de Liverpool à l'aller, il fallait le faire. Leverkusen est invaincu cette saison et on va pas raconter la saison de Leverkusen ici, et la Roma est de mieux en mieux avec De Rossi. Maintenant, voilà, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a quand même mérité sa place en demi-finale de l'Europa League. Ils ont quand même sorti, ils étaient quand même dans la poule de la mort. Enfin, on met des guillemets, mais l'AEK Athènes, l'Ajax, Brighton de Zerbi qui avait terminé sixième l'année dernière, on se disait comment l'OM va faire. Ils ont terminé deuxième. Derrière, le Shakhtar Donetsk qui avait terminé troisième dans la poule de Porto et le Barça et qui avait battu le Barça, tu les sors. Villarreal qui a quand même une histoire en Europe sur les dernières années bien supérieure à l'OM, même s'ils sont en difficulté. Ils avaient fait demi-finale avec Unai Emery de Ligue des Champions et en sortant la Juve notamment et le Bayern. Et derrière, ils avaient gagné aussi l'Europa League contre Manchester United et Benfica. On parle quand même, même s'ils sont en difficulté cette saison,
du deuxième championnat portugais.
Mais d'une équipe qui avait fait deux fois quart de finale de Ligue des Champions. Donc ils sont là. Il y a quand même un ADN Europe dans ce club. Bah, je me dis oui, moi pourquoi pas. J'ai envie d'y croire. Et puis je préfère prendre le Bayer Leverkusen. Si tu prends le Bayer Leverkusen, parce que c'est pas fait en finale sur un match plutôt que sur une double confrontation, quand on voit ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc moi je me dis pourquoi pas. Maintenant bien évidemment qu'ils sont pas favoris. Hein.
Bon, ton avis Damien là-dessus, toi. Est-ce que ça te paraît fou d'imaginer ça aujourd'hui?
Moi, si tu veux vraiment mon avis, oui. Je les vois pas aller au bout. Je les vois pas la gagner. Pour moi, déjà passer l'Atalanta, ça va être difficile.
Oui, ça va être très difficile.
Parce que même s'il n'y a pas une culture Coupe d'Europe comme à l'Olympique de Marseille, ce que propose Gasperini, c'est quand même plutôt solide et bien meilleur que ce qu'on voit à l'Olympique de Marseille depuis quelques temps. Après, moi, là où je rejoins Simon, c'est sur le fait qu'ils sont à l'énergie. On voit beaucoup de mecs qui sont fatigués, on voit beaucoup de blessés aussi. À partir d'un moment, ça peut plus tenir. Et la profondeur de banc, elle le permet pas non plus. On le voit, on fait rentrer quasiment des gamins. J'ai vu qu'il y avait encore Sparagna qui était sur le banc pour pouvoir pallier les absences en défense centrale. Donc voilà, on va chercher quand même assez loin dans les vestiaires.
Il y a des fonds de tiroir parfois.
Voilà.
C'est vrai de dire ça, mais bon.
Après,
les gamins.
Oui. Il y a la culture Coupe d'Europe, il y a ce qu'ils ont fait par le passé, il y a ce qui se passe aussi au Vélodrome.
C'est ça.
On l'a vu contre le Benfica où ils ont été capables de se transcender encore une fois. Mais est-ce que à chaque fois se transcender, ça va tenir? Je suis pas sûr.
Ah bah avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta qui fait encore une fois, qui a sorti Liverpool. Non,
l'Atalanta en avril, je dis, a perdu contre la Fiorentina, contre Cagliari, a fini contre l'AS Verona.
Ils peuvent les battre.
C'est pas insurmontable.
Oui, une très belle équipe. Il y a aucun problème
sur la dynamique. Après, moi, je suis pas. C'est ce qui se passe quand on voit contre Toulouse la façon dont Marseille a fini le match et que c'est vraiment un peu tiré par les cheveux d'aller chercher ce point-là sur un but magique de Montbagnard.
Après, c'est trois jours après 120 minutes.
Voilà. Mais justement, l'accumulation de matchs, à un moment donné, elle va faire que tu peux pas non plus tenir un rythme
et toi qui as connu ça, je te pose la question, mais est-ce qu'une demi-finale d'Europa League, ça peut pas aussi forcer certains joueurs?
Ça va galvaniser certains,
non, mais
c'est
à
sûr.
Revenir plus rapidement, à faire les efforts.
Mais bien sûr.
Il y a quand même des perspectives pour les Klos, ceux qui sont blessés là.
Ah, ils sont de retour d'ailleurs, Klos et Klos.
Tu peux avoir la dalle. Et être sur cette dynamique-là aussi, non?
Peut-être qu'il y aura une dynamique de vestiaire qui va se créer, une émotion aussi par rapport aux envies des uns et des autres. Mais je te le dis, moi, je pense qu'être à l'énergie depuis quelques temps, ça va leur coûter à un moment donné. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là, déjà, sur le prochain match, ça va être compliqué contre Nice. Tu vas avoir derrière la Coupe d'Europe qui arrive très vite. Moi, je vois la difficulté déjà de passer la demi-finale.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le luxe, et d'ailleurs, il y a très peu d'équipes qui ont le luxe de choisir. Personne, je pense, dit on va lâcher le championnat pour jouer la Coupe d'Europe, même si Walid a rappelé que très souvent, tu laisses de l'influx, tu laisses de l'énergie. Et,
même c'est une vraie bonne question, je crois, en tout cas.
Parfois,
c'est une question journalistique. Est-ce que Marseille n'a pas intérêt à lâcher?
Je pense que personne ne fait ça. Je pense au contrôle de Damien.
Tu fais Nice, lance Atalanta en 8 jours.
Tu vois Benatia ou Longoria ou même Gassé dire oh, les gars, vous savez quoi, Nice et Lance, c'est pas grave.
Tu vas les jouer à fond.
C'est pas ça.
Je pense que l'OM, ils ont pas.
C'est faire souffler trois joueurs majeurs ton effectif, tu vois, par exemple.
Ils sont à flux tendu sur l'effectif, justement. Il y a des mecs qui rentrent au fur et à mesure. Nice, il faut gagner. Lens, il faut gagner. Si tu finis T'imagines, tu vas en finale de Ligue Europa, tu perds et t'as fini 11e en championnat. Bon,
le débat se passera demain s'il y a des fêtes contre Nice. Bah, parce que tu seras peut-être obligé de lâcher la Ligue 1 et ne penser qu'à la Ligue Europa. On fait une pause.
Et en fait,
des fêtes
contre Toulouse, il aurait pu être déjà posé ce soir.
Tout à fait. Dans un instant, tiens, Vincent nous a appelé, supporter de l'OM. Lui, en revanche, il dit qu'il faut lâcher le championnat. On l'accueille dans Génération After dans quelques secondes. Reste avec nous et avec Simon Dutin, Damien Perkis et Walid Acharchour. Vous écoutez RMC, c'est Génération After. Il est 20h16. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Pauline Acharchour, avec Simon Lutin et avec Damien Perkis, hein, ancien joueur professionnel, vous le savez, vous, ce chalier, Stéphanois, vous avez plein de souvenirs qui vous reviennent en tête.
Des bons et des mauvais.
À Nottingham aussi, peut-être. Ils en ont. Si vous nous écoutez également au Canada, peut-être que vous avez vu jouer Damien en MLS. C'est Génération After sur RMC. On est ensemble jusqu'à 22h. On parle de Marseille. Marseille a-t-il les moyens, est-il armé pour gagner la Ligue Europa? Vincent, tiens, est avec nous, 32-16, supporter de l'OM. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir,
l'After. Heureux de t'accueillir. Salut, bienvenue Vincent. Sur RMC avec Damien Simon également. Et Walid. Alors, toi, tu as un avis tranché, je vois là sur l'affiche. Tu estimes qu'il faut lâcher le championnat dès maintenant.
C'est bon, il faut arrêter les conneries. Moi, j'ai les souvenirs de 2004-2018 où on a joué le championnat comme des cons jusqu'à la dernière journée. On s'est pointé en finale de Ligue Europa avec des joueurs soit blessés, soit diminués, soit cramés physiquement. Là, les mecs, en plus, on le sait, on le voit, ils ont une préparation physique qui a été catastrophique. Là, c'est bon. Les cadres, on les met, les cadres, tu les mets 30 minutes en fin de match histoire de leur faire garder un peu de rythme ou une première, la première mi-temps. Après, rideau, tu laisses reposer. Quand tu vois les quatre équipes qui restent, tu sais que l'Atalanta et la Roma, ils vont s'entretuer dans leur championnat pour la cinquième place qualificative de Ligue des Champions chez eux. Et les Leverkusen, au bout d'un moment, ils vont perdre cette saison. Ils commencent à avoir une pole de cul, donc tu peux espérer qu'ils perdent contre toi à la 95e. Pourquoi pas? Mais ça sert à rien de jouer le championnat. On peut espérer quoi? La sixième place pour l'Europa,
bah,
Conférence League. Ah ouais, génial, la Conférence League. Ouah, c'est bon, on l'a joué il y a deux ans, c'est fait taper comme des chefs par faire une heureuse. C'est bon, les conneries, ça suffit. Là, on a une chance. Là, on a une chance.
T'as monté, Vincent.
Encore. Non, on a encore une chance de jouer une finale. L'Atalanta, par miracle, ils ont sorti Liverpool. Je pense que personne ne s'attendait sur le plateau que l'Atalanta ait gagné 3-0 à Anfield. Putain, pourquoi pas l'OM peut espérer gagner 2-0 contre l'Atalanta à la maison. Et après, tu mets le bus au match retour sur un contre de Aubameyang avec Mbanya qui claque des buts. Même lui, je pense qu'il ne sait pas comment il les met à la Brambao. Il nous fait un contrôle du dos et une reprise du genou qui finit en lucarne. On n'est pas à l'abri de rien. Les Ritecs, ils ont toujours réussi en Coupe d'Europe. Dès qu'on a joué des Ritecs, ils ont réussi.
Ouais, on peut les appeler les Italiens aussi.
Réalité, c'est les dernières années, tes plus grosses sensations, c'est contre les Ritecs.
Bon.
Donc, on peut espérer.
Après, je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, mais ça s'entend. Sur une fin de saison où t'as eu pas mal de joueurs sur les rotules, et moi, pour moi, les trois joueurs les plus fiables aujourd'hui, c'est Balerdi, Verretou et Aubameyang, qui eux aussi tirent la langue. Kondogbia, qui essaye d'enchaîner deux matchs par semaine, qui a beaucoup de mal. Minarid, qui a eu qui était pas là sur le dernier match. C'est vrai que tu peux préserver toutes tes chances pour ces deux rangs. Rendez-vous là, parce que si on nous avait dit il y a encore 2-3 mois que l'Olympique de Marseille, pendant que Gattuso était là, qui pouvait avoir une demi-finale contre l'Atalanta, avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta, superbe équipe, super coach, qui collectivement est bien meilleur que l'Olympique de Marseille, tu dois jouer le coup à fond. Après, le problème, c'est que tu peux pas arriver contre Nice demain et mettre une équipe B.
Tu peux le faire dimanche contre Lens.
Mais donc ça va peut-être se faire inconsciemment, peut-être que je sais pas, ça va. Mais c'est vrai que je pense que l'opportunité qu'ils ont en Europa League, il faut la saisir à 100%.
Oui, mais Vincent, tu as l'air d'avoir tout posé sur papier, mis les retenues, fait des divisions, des calculs. Non. Moi, je veux bien si c'était aussi simple que ça. Mais sauf erreur de ma part, je crois qu'en 99, quand Bordeaux est champion, que l'OM termine deuxième à un point, vous prenez 3-0 en finale contre Parme. Ça pas, je veux dire, vous avez mené de front les deux choses. Il y a pas, je suis pas sûr que ça te rende service. Pour performer dans la compétition que t'as coché, de lâcher, de laisser des mecs au garage.
Ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont été dans le sprint final, ils ont perdu de l'influx, ils ont perdu les finales.
Ouais, mais
je pense que.
Et à l'inverse, si tu laisses les mecs à l'écurie et que du coup tu leur dis, ah ben vas-y, c'est contre l'Atalanta que tu dois tout donner, bah si tu te rates, tu passes à côté de toute ta fin de saison. Une victoire contre Lens, tu te relances. Moi, je veux bien que la Conference League, ça t'intéresse pas, mais je sais pas, t'as vu les émeutes. Le peuple romain qui a envahi le Colisée après la victoire dans la première édition. Je comprends pas pourquoi il y a ce mépris. Une Coupe d'Europe, c'est toujours fantastique.
Vincent, tu peux répondre, vas-y.
Simon, tu me demandes de choisir une Europa Conference League. On est encore, je regarde le match en retard demain, on est même si on le gagne encore à 3 points de Lens. Lens qui a une fin de championnat plutôt quand même relax après notre match contre nous, et d'avoir la chance de l'autre côté, par peut-être un coup de bol, aller jouer la Ligue des Champions si tu vas en finale.
C'est que le chemin est...
Excuse-moi,
non, si tu gagnes la finale. Alors,
si tu gagnes
après,
la finale.
Par contre, ouais, après, c'est quand même différent. Il y a un seul problème. Si on gagne la finale de Ligue des Champions, il y a un seul problème qui est quand même assez énorme. Allez, on garde Joaquim Correa dans l'effectif. Alors ça, c'est le gros problème pour moi.
T'es pas à l'abri qu'il t'en mette un ou deux d'ici la fin de saison, Correa.
Ah, écoute-moi,
on a vu son match contre Toulouse.
Non, mais les mecs,
Correa, s'il plante le but en s'il plante un but à l'Atalanta et le but en finale de la Ligue Europa, je t'annonce que le mec, ils sont tous le virage nord, ils ont les fesses tatouées Correa. Je te lance même Dimeco, je pense qu'il se fait une crête et il fait taper Correa sur le front, moi je pense que c'est parfait.
Merci Vincent.
Mais juste rapidement, si tu gagnes contre Nice, si tu gagnes contre Lens, derrière c'est Lorient, Reims, Le Havre, bah, sur la dynamique, sur l'adrénaline, sur la lancée de ta fin de saison.
Ah, mais c'est 3 matchs en 7 jours.
Ah, d'accord, mais
c'est
bon.
3 matchs en 7 jours. Et si à finale, c'est même 4 matchs en 12 jours. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte.
Il faudra faire un choix à un moment, c'est sûr. Ouais. Bon, voilà pour.
Je rappelle qu'en 2004, l'OM termine 7ème. Et qui vont en finale d'Europa de Coupe UEFA
à l'époque. 2004.
À l'époque. Et déjà, il y avait Alain Perrin qui avait démarré la saison, et donc José Anigo qui était venu un peu à la Jean-Louis Gasset, quoi. Et derrière, ils avaient fait finale, donc ça ressemble aussi un peu à ce type de saison là.
Ils avaient Didier Drogba en numéro 9, Aubameyang, et Kamel Meriem numéro 10.
Aubameyang, je vais pas dire se rapproche de Drogba, mais dans le même style, fait une saison un peu similaire en Europa League.
Ça dépend de la gestion des cadres, notamment dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci Vincent d'avoir fait le 32-16. Et si c'était Faris Moumbagna, le héros de la fin de saison. Tiens, écoutez ce qu'en disait Jean-Louis Gasset aujourd'hui en conférence de presse, en veille de match contre Nice. Et je veux bien l'avis de Damien sur le profil Faris Moumbagna, toi le défenseur central. Écoutons Jean-Louis Gasset.
Quand je l'ai vu la première fois, de suite j'ai pensé à Brandao. Même gabarit gaucher. Maintenant c'est un jeune joueur, il faut le faire travailler techniquement, il faut le faire travailler dans les déplacements, parce que c'est un garçon qui va vite. On s'en rend pas toujours compte, parce qu'il se positionne très mal pour les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui. Mais malheureusement, on joue tous les 3-4 jours. Il est souvent efficace en rentrant.
Faris Moumbagna, le héros du quart de finale. Qu'est-ce que t'en penses, Damien, de ce joueur-là? On voit tous ses lacunes techniques. Ça, c'est incontestable. Hein. Jean-Luc Gasset le dit sans le dire là aussi. Il faut qu'il travaille encore. Il a 23 ans. Est-ce que tu penses qu'il a une marge de progression? Est-ce que ça se bosse, ça aussi? Ou il sera ce joueur-là?
Bien sûr, il aura une marge de progression. Moi, j'ai un exemple tout simple. Bafé Gomis à Saint-Etienne, à l'époque où moi j'arrive en 2005. Bafé, devant le but, c'est pas un ténor. Dans ses déplacements, c'est pas trop ça. Son jeu dos au but n'est pas bon. Par contre, à la fin de chaque entraînement, il était avec Laurent Rousset pendant un an et il a travaillé. Appelez-le, Bafé Gomis. Demandez-lui ce qu'il doit à Laurent Rousset. Il vous dira.
Il était avec nous il y a 2 semaines, Bafé. Ouais.
Et je pense que quand on prend un joueur et qu'on peut le faire travailler.
Sans but en Ligue 1.
Voilà. Et on connaît la carrière qu'il a fait. Mais je veux dire, si on prend un joueur et qu'on a le temps de travailler avec lui, et je pense que Jean-Louis Gasset l'a très bien expliqué, en jouant tous les 3 jours, c'est compliqué. Après, je pense qu'il peut progresser, devenir l'attaquant de l'Olympique de Marseille, l'avançant de l'Olympique de Marseille. J'y crois pas trop, parce que c'est pas pour moi. Ils l'attendent encore. Aubameyang était venu, mais c'est pas vraiment le profil type que l'OM attend. Vitinha, ça a pas marché non plus. Et là, Moumbagna, c'est voilà, il est su des critiques. On peut le prendre comme un impact player. Avec sa vitesse, comme on dit. Des fois, il paraît maladroit avec ses pieds, mais on ne sait jamais, il peut sortir un crochet qui arrive de nulle part. Et là, on l'a vu contre Toulouse. Il tente un geste que personne n'aurait tenté.
Tout le monde est injuste avec Moumbagna.
Mais moi, ce que je trouve dérangeant, c'est les critiques et les moqueries.
Ça se moque,
c'est ça, les moqueries. J'ai entendu, en plus, j'aime beaucoup Duga hier, même parfois Daniel, etc., même si on connaît ce qui se passe entre les deux. Mais en fait, Moumbagna, il arrive pour être numéro 2 derrière Aubameyang. Il prend 80K par mois. Il arrive pour progresser. Il a mis 20 buts en Norvège. Il a 23 ans. Oui, il a des.
C'est pas. C'est il est venu pour 8 millions d'euros.
Voilà, 8 millions d'euros. C'est pas Kun Agüero avec les pieds. Mais encore une fois, dans la surface de réparation, il peut aider. Et quand je vois tous les débats qu'on fait sur un remplaçant de l'Olympique de Marseille, laissez-le bosser. Il est quand même cette semaine, il met un but contre Benfica qui quand même te permet de te qualifier. Un but contre Toulouse qui te préserve.
réserve tes chances d'aller encore en Europe à la fin de saison. Et on se moque. Oui, il est pas technique. Oui, très bien, il est pas technique. Mais est-ce que aujourd'hui, dans un poste de remplaçant derrière Aubameyang, est-ce qu'il peut apporter à l'Olympique de Marseille? Ben voilà, on va attendre. De là à se moquer tous les deux soirs sur Mumbagna, sincèrement.
Mais surtout, il y a toujours eu un effet de loupe, et c'est bien normal sur les performances du numéro 9 à l'OM. Il y a eu Jean-Pierre Papin, exactement. On va pas revenir là-dessus. Didier Drogba, et puis Damien citait les échecs. Il y a eu Vitinha, il y a eu Mitroglou, il y avait Alfonso Pérez qui était arrivé. Il avait rincé tout le monde en Liga. Il n'a pas touché un cachou en Ligue 1. Moi, je trouve que, avant même les moqueries, que je trouve détestables, il y a surtout une méconnaissance de ce qu'il produit. Alors ok, il a pas enfilé les perles.
La rentrée contre Benfica avait été compliquée techniquement, mais il avait été joué.
Okay, il l'avait mis dans l'impact, dans l'énergie. Ce sera jamais Van Basten ou Benzema.
Sans aller jusque là, les amis.
C'est jamais un mec.
Encore une fois,
c'est pas les mêmes joueurs. Mais toi, un Benzema ou un Rooney qui savait jouer avec les autres, redescendre en 10, qui avait une technique. Non, c'est pas ça. Mais en impact player. Et je suis désolé. Il a été pas mal par moments. Ça se reproduit pas dans les stats, mais il est capable de combiner.
Hein.
Il est capable de.
Oui, puis je pense que ça peut être une plaie.
Il a des remiser pour ses copains.
Mais tu sais que c'est dur hein, quand t'es central et que tu vois rentrer un mec comme ça.
Voilà,
c'est
plein
ça.
Il doit être pénible.
Et tu te dis, oh là là, je vais me taper un mec qui va vite, un mec qui rentre dedans, qui va être. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est un attaquant. Il a des occasions. Oui. Le jour où ça va être bien techniquement, un peu mieux devant le but et tout, il marquera peut-être ses 15 buts en Ligue 1 ou 20 buts en Ligue 1, et l'Olympique de Marseille lui dira merci, ou un autre club.
Après, oui, c'est pas extraordinaire. C'est vrai que moi, la rentrée qu'il a fait contre Benfica, hormis son but, mais dans un positionnement un peu de côté droit qui l'a éloigné un petit peu du but, j'ai trouvé que voilà, c'est vrai que techniquement, c'était très très en dessous.
Et si
maintenant, la réalité, c'est que si on doit analyser sa semaine, il est important pour l'Olympique de Marseille, et c'est un jeune joueur qui vient dans le rôle de second. On fait des débats tous les soirs en ce moment sur Mumbagna. Ça va, on parle pas de.
Mais on en fait encore ce soir, t'as vu?
Voilà, non, mais là, c'est là. Là, on essaye un petit peu de.
Oui, d'équilibrer un peu
d'équilibrer. Les propos, mais c'est vrai que quand j'entends, ça va, on va se calmer doucement, quoi. Oui, il est pas bon. On n'est pas obligé de se moquer. Et puis en plus, il met quand même un but contre Toulouse. Il est pas mal, le but.
Oui, il faut un peu d'aisance.
Mais moi, je me souviens qu'il y avait des moqueries lorsqu'il était arrivé parce que personne ne le connaissait et qu'on se disait, ils ont encore fait n'importe quoi. C'est le panic buy, comme disent les Anglais. Il fallait prendre un mec, absolument. Je trouve qu'il est pas
après,
si
oui, c'est pas Aubameyang. Oui, c'est pas Aubameyang.
Ce qui est important, Damien, aussi, c'est les mots de son entraîneur. Voilà, Jean-Louis Gasset l'a très bien analysé. Il a des problèmes dans ses courses, il a des problèmes techniquement. Il sait à qui il a affaire. S'il le fait rentrer sur le terrain, c'est qu'il a confiance aussi en ses qualités qu'il a pour l'instant et qu'il sait qu'il peut aider l'équipe. Sinon, il ne le mettrait pas, il le laisserait sur le banc et point barre.
Voilà, pour Faris Mumbagna, qui débutera peut-être demain ou aura quelques minutes demain soir face à Nice. Dans un instant, l'autre match demain attendu, c'est Monaco-Lille. Cette question est appelée nous au 32-16 pour en débattre. Supporter monégasque et lillois, qui est le mieux armé pour finir deuxième? Aujourd'hui, à 18h, l'a dit, nous voulons être absolument deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. C'est Génération After avec Damien Perquis ce soir, Simon Dutin et Walid Acharchour. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Merci d'être avec nous, RMC Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. On a eu les résultats d'audience en début de semaine, en milieu de semaine dernière.
C'est comment, en fait?
C'est positif, les gars, on progresse. On
Génération
avance.
After, c'est bien.
On est de plus en plus écoutés. Exactement, mon cher Walid. C'est une belle récompense. Bravo à tous, hein, toute l'équipe.
Cette émission qui
démarre. Bien sûr.
Cette émission plein d'humilité.
Qui grandit bien depuis un an et demi maintenant.
On est un peu les femmes Mumbagna du PAF. Hein.
T'es un peu plus vert.
Je le prends un peu mal quand même.
Non, on vient avec beaucoup d'humilité.
Moi, tu dis, on a plus Nicolas Jamin est plus technique que Mumbagna.
On a appelé Vitinha de la grille des programmes d'RMC, okay. J'entends.
D'accord. Vitinha lequel?
Le Parisien, mon ami.
D'accord. Non, mais je parlais en termes d'humilité. On vient, nous, on est là.
Ah, d'humilité?
Non, on est là, etc. On essaie de mettre un but ou deux importants dans la saison.
C'est pour faire gagner les points l'équipe.
C'est ça. On est assez brut. Au niveau verbal, hein, un peu brut, pas le plus technique,
mais on progresse.
Pas le champ lexical le plus.
On progresse. On aime le foot,
tu vois.
Et on parle foot.
On a des points communs avec Faris.
Tout à fait.
Enfin, moi, j'en ai.
D'ailleurs, il prend cher sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Faris, hein, malgré tout ce qu'on a pu développer ici avec Damien, Simon et Walid. Bon, voilà, t'as Steve qui nous dit Mumbagna actuellement, il est pourri, les gars, je suis désolé, il ne peut que s'améliorer. Mais Jean, il en a, je ne sais même pas si la Ligue 2 est à son niveau. Bon,
ça, c'est autre chose.
Ouais, ça, c'est gratuit. Ouais. On nous dit également Vitinha 10 fois supérieur à Mumbagna.
Oui, mais enfin, le problème de Vitinha, c'est qu'il y avait 32 millions d'euros.
Profil différent, comparable.
Il y avait 32 millions d'euros à chaque fois qu'il contrôlait un ballon et que malheureusement il fallait casser ça.
C'est ça, tout à fait. C'est trois fois moins cher Mumbagna, les amis aussi.
Non, mais voilà, c'est.
Bon, t'as Arnaud qui nous dit 6 stop bashing Mumbagna. Voilà, c'était un peu l'idée de ce soir dans Génération After.
Laissez-le bosser, laissez-le tranquille.
Tranquille. Demain soir, Monaco-Lille. Monaco, 2e, 55 points. Lille, 4e, 52 points. À 4 journées de la fin, Monaco, qui est sur une bonne série d'ailleurs. On en parle peu, c'est vrai. 5 victoires, 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Lille aussi, invaincu sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. Gros duel. Qui, selon vous, est le mieux lancé et même le mieux armé pour aller chercher la 2e place? Je le disais tout à l'heure, à 18h, estime que. Enfin, veut absolument cette 2e place. La 3e place l'intéresse moins, même si elle sera qualificative directement pour la phase de poule de la prochaine Ligue des Champions. Vous nous appelez supporters monégasques et lillois au 32-16. Je précise, Monaco demain, bien sûr, sans Golovin, ça on le savait, out jusqu'à la fin de la saison, sans Ben Seguir et Singo, hein, suspendu après leur carton rouge le week-end dernier. Tiens, Damien, je commence avec toi. Qui est le mieux armé, selon toi, dans la dynamique et dans les contours de l'effectif entre Monaco et Lille pour être dauphin du PSG?
Dans la dynamique, dans le contour de l'effectif, je pense que Monaco est mieux armé. Ça a été un objectif depuis le début de saison de finir, en tout cas, soit d'aller chercher le titre, mais en tout cas de finir deuxième derrière le Paris Saint-Germain et en Ligue des Champions. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette année et ça a été l'objectif affirmé d'entrée du club. Je pense que, vu le calendrier qu'ils ont aussi,
c'est ça.
C'est un peu plus facile, on va dire, après cette confrontation avec Lille demain, pour Monaco.
Ils vont à Lyon, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, ils reçoivent Nantes.
Voilà.
Donc c'est un calendrier plutôt abordable.
Voilà, qui est plutôt abordable, en tout cas avec des matchs où ils vont certainement rencontrer des équipes qui n'auront plus rien à jouer, comme Montpellier. Après, pour Lille, voilà, il y a eu peut-être la déception aussi de l'élimination en Coupe d'Europe, même s'ils ont bien rebondi derrière. Voilà, je pense qu'il faut. Je pense que Monaco, pour moi, a toutes ses chances de finir deuxième.
Walid.
Oui, moi, je suis d'accord. Même si pour moi, l'équipe qui me procure le plus de plaisir cette saison, l'équipe la plus cohérente de Ligue 1 hors Paris Saint-Germain, ça reste le Lille de Fonseca. On l'a encore vu sur la double confrontation contre Aston Villa où ils auraient mérité de se qualifier. Mais je suis d'accord avec Damien sur le côté calendrier, sur le fait de recevoir Lille aussi.
Ah mais c'est ça, il y a pas de boule de cristal pour dire qu'on en saura un peu plus demain soir. Quoi.
Voilà, le fait de recevoir Lille, derrière tu joues Clermont à la maison qui sera en Ligue 2, Montpellier qui sera sauvé, même si attention il y a la blessure de Golovin, mais il y a un Kliouch en ce moment qui est en grande forme et qui prend une belle dimension. Donc je me dis quand même que Monaco va faire le boulot. Et puis Monaco dans les gros matchs quand même cette saison, je regardais notamment à l'extérieur, tu vas t'imposer à Lens, tu vas t'imposer à Nice, tu vas t'imposer à Brest, où t'as Nil complètement
costaud,
Brest.
Bien sûr.
Je trouve quand même qu'il y a une certaine fiabilité là-dessus. Bon, ils avaient perdu à Lille au match aller. Donc je te dirais Monaco, même si pour moi, je trouve que le travail, la régularité, la cohérence me ferait pencher sur Lille.
Simon.
Il va falloir que tu m'invites plus souvent, Nicolas, parce que j'en ai marre d'être tout le temps d'accord avec Walid. Là, ça me manque, là, quand on se prenait la tête. Moi, Lille, c'est le 11 titulaire. Je crois que c'est mon équipe favorite en Ligue 1. Tu nous avais fait jouer au jeu des petits pronostics, tu sais, en début d'année. J'avais mis Lille sur le podium, donc j'ai pas envie de me dédire. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de stabilité. C'est même pas une impression du côté de Lille après une mise en chauffe un peu plus lente. Je trouve que Monaco a laissé passer beaucoup d'occasions quand même cette année. Alors, je me suis suffisamment fait insulter par les Lyonnais pour rappeler que il y a ce match en décembre, là, c'est une des premières de Pierre Sage. Ils doivent gagner 3-4-0, mais Balogun a gardé les boîtes à chaussures, ils perdent 1-0. Il y a eu Balogun, les deux pénaux ratés contre Nice. Ils ont besoin d'un match nul contre Le Havre, qu'ils doivent gagner 1000 fois, ils font un partout, alors qu'ils ont roulé sur le Havre. Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses. Monaco, je trouve, prend trop de buts cette saison.
C'est un peu plus sérieux, là.
Alors, je pense qu'ils sont dans une meilleure dynamique. En effet, je vous rejoins, messieurs. Ils encaissent trop de buts, mais ils en marquent plus. Et j'ai l'impression qu'il vaut mieux marquer beaucoup de buts, quitte à en encaisser beaucoup dans les scores de fin de saison un peu, tu sais, un peu anarchiques.
Là, ils battent
face à des équipes Damien l'a rappelé, ne jouent plus grand-chose. Il y a souvent des matchs enlevés avec beaucoup de buts. Je pense que Monaco est bien placé. Mais si c'est Lille qui le fait, Monaco ne pourra s'en prendre qu'à lui-même parce que les matchs ratés dont j'ai parlé, on a suffisamment souligné le fait qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette année, ils pourront le regretter longtemps.
Ils battent Rennes, même si sur la première mi-temps, il y a un match dans le match entre les deux, et en deuxième mi-temps, je les ai trouvés décevants à 11 contre 10 pendant une grande partie de la rencontre. Ils vont gagner à Strasbourg, là ils gagnent 5-2 contre Metz. Tu sens quand même que c'est un peu mieux, même défensivement, même si moi je suis pas un grand fan de Thilo Kehrer, qui lui aussi a pris rouge contre Rennes notamment. Je trouve quand même globalement moins qu'il dégage quelque chose. Et puis il y a une fraîcheur sur cette fin de saison, due notamment au fait de ne pas avoir fait de coupe européenne, qui, je pense, fera la différence. Moi, je le dis, hein, mais s'ils font pas deuxième, ce serait quand même ça sera rien parce qu'ils iront en Ligue des Champions.
Presque une déception.
Mais ce sera presque une déception.
Bon, franchement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du boulot de Paulo Fonseca. Hein. Tout le monde est dithyrambique. Ce qu'il fait, bon, ce qu'il a fait en Coupe d'Europe également et en Ligue 1, on parle peu, très peu du travail d'Adi Hütter. Est-ce qu'il a un mérite à amener ce Monaco-là actuellement deuxième de Ligue 1? Est-ce que tu y a quelque chose qui te plaît dans ce qu'il propose à l'ASM, toi, Damien?
Ouais, moi je rejoins.
Ou c'est juste normal Monaco deuxième.
Non, moi je rejoins Simon sur le fait qu'il marque beaucoup de buts. C'est voilà, ça on sait qu'ils sont capables de marquer quoi qu'il arrive et avec des buteurs et à côté de ça. C'est vrai que la stabilité défensive, elle a été mieux apportée. Après, il y a une chose, c'est sur ce qu'ils font à domicile. Mmh. Et les résultats où ils ont bugué, ça a été à domicile. Que ce soit le Havre ou Toulouse, le nul et la défaite.
Avant la victoire contre Rennes, il y avait
quand même des grandes difficultés à domicile. C'est peut-être ça le bas qui blesse pour demain. Mais après, sur le rôle du coach, moi je trouve qu'il a façonné son effectif comme il le voulait aussi. Il l'a préparé à être à cette deuxième place. Il est dans les temps. Donc voilà, et pour moi, et il a sorti aussi des joueurs du centre, il a promu les jeunes, donc ça c'est bien aussi.
Après, c'est la politique du club de mettre en avant les jeunes joueurs notamment. Moi, sincèrement, je suis incapable de te dire, Nico, si c'est le travail d'Adi Hütter qui fait que, ou si c'est les individualités.
Il y a forcément une part de responsabilité.
Oui, il y a une part de responsabilité, mais moi, je suis désolé, à un match par semaine, quand t'es Monaco, quand t'as Balogun ou Ben Yedder devant et Mbolo.
Tu fais pas podium,
Mbolo qui est à l'infirmerie parce qu'il s'est fait les croisés. Quand tu dois choisir entre Minamino, Akliouche, Ben Seguir, Golovin, qu'au milieu de terrain, t'as le choix entre moi, Mohamed Camara qui est sur le banc, Denis Zakaria qui joue à Chelsea, à Gladbach, à la Juventus.
Zakaria qui fait une saison exceptionnelle.
Et Fofana, ça va. Hein, oui, je me dis, non mais autant Fonseca, je suis capable de te dire qu'il optimise un max l'effectif de Lille, autant sur Monaco et à 18h, je ne me prononce pas. Je ne te dis pas qu'il n'a aucun apport, mais je n'arrive pas à saisir quand je vois les matchs si véritablement c'est lui.
C'est presque un train qui arrive à l'heure. Tiens, j'accueille Charles au 32-16, supporter lillois. Salut Charles.
Oui, salut à tous.
Bienvenue dans la génération After, heureux de t'accueillir. Bon, comment tu sens cette fin de saison, toi? Est-ce que, bon, après, attention, hein, si Lille finit 3e, c'est une saison exceptionnelle pour vous aussi. Hein. Je pense que la deuxième place, ce n'est pas l'objectif absolu, c'est tout le podium.
Ah oui, mais c'est complètement. Après, on se souvient un peu de la désillusion du dernier match contre Troyes la saison dernière. Où, d'accord, il y a un tournant qui est Monaco demain soir pour nous. Mais je me méfie beaucoup des matchs qui viennent contre Metz, qui marche un peu sur l'eau en ce moment. Il va y avoir encore, je crois que c'est Lyon à domicile, Nantes et Nice à domicile à la fin. Donc même, enfin, quel que soit le résultat de demain, je me méfie encore limite plus des matchs qu'il y aura par la suite.
Certainement. Lille hein, qui va recevoir Lyon, aller à Nantes et finir par la réception de Nice. Effectivement, le calendrier lillois est beaucoup plus corsé que le calendrier monégasque. Bon, en tout cas, la saison, tu estimes qu'elle est déjà réussie pour Lille ou pas? 4 jours après l'élimination.
On sort quand même d'une grosse désillusion. Voilà, exactement. Non, on a toujours pas complètement récupéré de la... Enfin, la désillusion contre Aston Villa jeudi dernier. La victoire, on sent qu'on a un peu puisé dans les batteries en deuxième mi-temps contre Strasbourg ce week-end. La victoire fait vraiment du bien au moral, je pense. Mais dire que c'est réussi, je pense oui dans le jeu, complètement. Après, il faudrait qu'on tape dans les 3 premières places. J'ai très peur de la 4e place avec des tours de barrage. Donc si on arrive à s'éviter ça, ce serait pas mal.
Merci Charles d'être venu dans Génération After. Tu nous rappelles quand tu veux, et par exemple demain soir, hein, pour débriefer le match contre Monaco, ce sera bien sûr dans l'After sur RMC. Excellente soirée à toi Charles, à très vite.
Avec plaisir, merci.
Salut Charles.
Ce soir Ligue 2 aussi les amis. Coup d'envoi dans quelques secondes de la 34e journée de Ligue 2. Tous les matchs ce soir, baston pour la montée.
Journée très intéressante.
Ouais, tout à fait. Edgar Groulot est avec nous. Salut Edgar.
Salut Nico, salut à
tous. Tu vas suivre 7 matchs en seul.
Grosse soirée
pour toi. Mais nous avons également 3 hommes sur les stades, notamment à Auxerre, leader de Ligue 2 qui reçoit Laval. Bonsoir Fred Joly.
Bonsoir tout le monde et bienvenue. Salut, au stade Abbé Deschamps, plein comme un œuf. Guichet fermé pour cette rencontre. C'est le 3e guichet fermé de la saison pour la JO Serre. C'est parti depuis 43 secondes. des Auxerrois un petit peu dans le dur, hein, qui restent sur des défaites face à Quevilly, Rouen, et puis face à Rodez et face à eux, des Lavallois qui sont eux carrément dans le dur avec 5 matchs sans victoire, 4 défaites et une 4 défaites et un nul pour les Lavallois. C'est parti, en tous les cas, okay. On attend du spectacle à la Baie des Champs, 0-0.
Guingamp, Angers, bonsoir Xavier Grimaud.
Bonsoir à tous, bienvenue au Roudourou qui est un peu moins plein comme un œuf que le stade de la Baie des Champs, mais c'est parti depuis une minute, 0-0 entre Guingamp et Angers. Angers, toujours deuxième, hein, qui résiste pour l'instant au vert de Saint-Etienne. Ils ont bien redémarré après un début de saison manqué, un début d'année civile, pardon, manqué des Angevins. Ils restent sur 6 matchs, 4 matchs sans défaite, 2 victoires, 2 nuls. Et une victoire ici permettrait de rester à la deuxième place. 0-0, premier centre Angevin repoussé par la défense bretonne. 0-0, 1 minute 30.
Il y a un match pour le maintien. Bordeaux-Dunkerque, sous les yeux de Nico Pollorsi. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous. Nico. Dans un match but atlantique qui est vide pour le coup, avec un virage sud déserté par les supporters qui font la grève. Bordeaux 14e reçoit Dunkerque 15e. Bordeaux doit gagner pour éviter de se faire vraiment peur. Ils ont 6 points d'avance sur les relégables. C'est parti depuis quelques minutes. 0-0 entre les deux équipes.
Nico, tu vas découvrir mon chouchou du côté de Dunkerque, Jessim Yassine, le 80.
Ah, bah, je vais regarder ça.
Bon joueur, un ailier.
Jessim Yassine,
19 ans, très bon joueur, sincèrement.
De Marilien, je vais scruter son match et je vais te faire un rapport, Walid.
Et Nico, Marcelin est titulaire.
Marcelin est titulaire. Bon, on aura le temps de reparler des Girondins plus tard, mais c'est dramatique ce qui se passe cette saison, franchement.
Vous savez que la pelouse du jardin de Nico Pollorsi est mieux tondue que celle des Girondins.
Bah, déjà, j'ai une tondeuse.
T'as une tondeuse, ils en ont plus.
Déjà, j'ai une tondeuse, ils en ont plus.
On en parlera tout à l'heure avec toi.
C'est une électrique, mais elle fonctionne bien quand même.
Mec, c'est incroyable ça.
Quel carnage.
Mais oui. Allez, on en parle tout à l'heure à 21h45 avec toi, Nico. C'est donc parti pour la soirée de Ligue 2. C'est parti également sur les autres pelouses. Edgar.
Oui, avec 7 matchs, donc tu l'as dit, Grenoble, Saint-Etienne, QRM, Amiens, Bastia, Concarneau, Valenciennes, Ajaccio, Caen, Annecy, Rodez, Paris FC et 3 Pau. On va suivre tout ça pour l'instant 0-0 sur toutes les autres pelouses de ce multiplex.
Pause, on va dans un instant dans Génération After avec Simon Dutin, Damien Perkis et Walid Acharchour. Vous écoutez RMC. On parle de Lens dans quelques secondes. On parlera aussi à partir de 21h de Vitinha, le Parisien. Reste avec nous, c'est RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Simon Dutin, avec Damien Perkis qui est avec nous ce soir et Walid Acharchour. Tu vas bien Damien?
Ouais, très bien, impeccable.
Tu bosses également à Bein Sport, hein, je me rappelle.
Ouais, également, ouais, avec Vanessa Lemoyne dans Bein Center le dimanche après-midi, puis quelques commentaires de match et des émissions aussi avec Darren Tullet.
Bah t'es bien, t'es RMC aussi ce soir, on est heureux de t'accueillir. Tiens, la Ligue 2, un premier but a été marqué ce soir en Ligue 2 à Auxerre Laval, Fred Joly.
Exactement, il aurait fallu à peine 5 minutes à la Auxerre pour prendre l'avantage au débordement de Perrin qui centre. Alors, il nous semblait que c'était Hein qui touchait le ballon, mais apparemment ce serait Lomami, qui est le défenseur Lavallo qui aurait marqué contre son camp. Enfin, ce qui est sûr, c'est que la Auxerre a pris l'avantage. La Auxerre a parfaitement débuté cette rencontre. Il cherchait à se rassurer, les Auxerrois, c'est bien parti, il mène 1-0.
Auxerre qui est tout proche de retrouver la Ligue 1. Voilà pour la Ligue 2, les autres scores. Rien n'a été marqué. On fera un point tout à l'heure à la fin de cette première heure de Génération After. Tiens, on voulait parler de Lens également ce soir. Samedi soir à Bollard, hein, je rappelle le contexte, Lens mène 1-0 face à Lorient. Et à la 89e minute, Eli Wahi, pas en réussite ce soir-là, est remplacé par Morgan Guilavogui. Écoutez la réaction de Bollard. Voilà, le gamin se prend une bronca à Bollard, pas habitué à entendre ce genre d'ambiance à Lens. Écoutez également ce que disait Franck Hez après le match.
Lui, comme nous, comme tout le monde, nous aurions tous aimé qu'il marque un but. Le gardien aussi fait les arrêts. On peut faire des compilations de très grands joueurs qui n'ont pas marqué toujours des buts. Ça fait partie des buteurs. Il y a des moments où ça fonctionne, des moments où ça ne fonctionne pas. Il s'est créé. Il continuera à s'en créer, il continuera à en marquer d'autres, j'en suis certain. Après la bronca du public, d'une partie du public, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie de donner quoi que ce soit une importance. Ce qui est sûr, c'est qu'ils aident pas le joueur, ils aident pas l'équipe. Voilà, ils jouent contre leur camp.
Franck Hez dit un peu plus tôt dans la soirée, notre public est devenu trop exigeant, on a fait 84 points la saison dernière. C'est le cas. Simon, t'es pas d'accord?
Non, mais alors il y a deux choses, trop exigeant, trop dur avec Wahi.
Oui, avec Wahi.
Je suis pas d'accord. Non, je pense que au bout d'un moment, c'est faut assumer. Quand t'es porté au nu, on attendait autre chose.
Porté au nu par qui?
Mais par nous aussi, on est coupable, on est comptable de ça, Nico. Mais il faut se souvenir quand même que c'était, c'était la hype de.
Il a 21 ans.
Souviens-toi du carnage qu'il a effectué à Montpellier. Ce qu'il a montré dans cette équipe de Montpellier, je trouve ça tout à fait légitime qu'on en attende monts et merveilles. On en attend.
Justement, juste l'erreur, elle est là, Simon, je pense. C'est un gamin de 20 ans qui a grandi à Montpellier, qui sort de son cocon de la paillade.
Dans ce cas, t'as tranché le débat.
Je débat avec toi.
Je conçois que ce soit dur à cet âge-là, mais c'est des gars qui sont préparés à ça. Ça peut basculer du bon côté comme du mauvais côté. Moi, je me souviens qu'il avait déjà été sifflé lors du match contre le PSG. Il est sorti à un quart d'heure de la fin. Bon, et encore une fois, à juste titre, c'est un mec. Moi, je trouve que c'est un des numéros 9 en France qui est le plus fort balle au pied face au jeu. Je trouve qu'il y a ce dribble derrière la jambe qui est devenu trop stéréotypé. Il fait toujours la même feinte. Je trouve qu'il a manqué de spontanéité, manqué de créativité, manqué de finition. Je trouve que c'est toujours difficile d'être critiqué par son propre public, mais au vu de l'investissement, il faut se souvenir, on parlait de lui à Arsenal, on parlait de lui éventuellement à Chelsea. Bon, il atterrit à Lens. Moi, je me mets à la place des supporters lensois qui ont peut-être été mal habitués avec la saison fantastique d'Openda la saison dernière, mais moi, je trouve qu'il manque du gras. Je suis désolé, la saison d'Ouaï, elle n'est pas satisfaisante au vu de l'investissement, au vu de son potentiel.
Damien, moi, c'est... Ouais. Vas-y, Damien.
Non, moi, je pense que c'est... Les sifflets, pour moi, on a le droit d'exprimer sa colère et son mécontentement, il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas oublier que Ouaï, c'est une saison à Montpellier, vraiment, enfin, c'est deux saisons, mais c'est une saison complète où il explose tout. Voilà, en tout, il en met 25 dans la saison. Je pense que, et derrière, on lui colle un tarif. Et aujourd'hui, quand on parle de tarif et qu'on parle d'investissement, on attend forcément beaucoup plus d'un jeune, même s'il est jeune, ou en tout cas d'un joueur. À partir du moment où on pose 35 millions, on attend de quelque chose. Et il remplace Openda, qui marquait beaucoup.
De tout ça, il n'est pas responsable, lui.
Oui, mais OK, il n'est pas responsable. Mais moi, je ne te dis pas que je cautionne les sifflets et que c'est normal. Attention, moi, je viens un peu aussi pour le défendre. Il faut, on dit souvent qu'il faut laisser du temps. Là, il en a eu quelques mois. Mais c'est vrai que, malheureusement, le prix où il a été acheté, on demande récompense sur investissement. Et pour l'instant, les supporters l'ont pas. Après, je suis d'accord avec Franck Hesse quand il dit, le public marque un but contre leur camp, ou en tout cas, il joue contre leur camp en sifflant le joueur parce que ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider. Alors même, il va pouvoir vous dire, ouais, ça me passe au-dessus, je m'en fous. Et ses potes du vestiaire vont pouvoir dire, ouais, on va l'aider, mais il s'en fout. Mais non, il s'en fout pas. Ça l'atteint. Il est jeune aussi, il faut comprendre ça. Et je pense que c'est pas le meilleur moyen de pouvoir le voir retrouver son meilleur niveau.
Walid.
Moi, ce qui me dérange, c'est pas. On a beaucoup parlé de Ouaï toute la saison. Moi, je suis globalement d'accord avec Simon. C'est vrai que ça reste une déception, même s'il y a un changement de statut. Mais bon, j'imaginais quand même qu'il avait fait le bon choix en allant à Lens plutôt qu'aller à Chelsea ou dans un autre club avec beaucoup plus d'exigences. Moi, c'est surtout les supporters qui, au-delà de Ouaï, critiquent le jeu de Lens, qui est beaucoup de supporters qui sont très très impatients en ce moment. Faut pas oublier d'où vient Lens, que ce qui s'est passé l'année dernière, ça reste exceptionnel et peut-être qu'ils le reverront jamais. Que depuis le départ de Gisolfi, et on sait pas si Franquès va partir, il va falloir retrouver peut-être une place un peu plus normale pour le RC Lens. Et moi, je les trouve quand même très très durs. Là, sur le match contre Clermont, je les ai trouvés quand même très dur parce que c'était pas que Ouaï, et je crois qu'il y a Brice Samba qui en a parlé, notamment en conférence de presse. Il y a aussi Jonathan Gradit qui en a parlé, Franquès au micro de Canal. Et je pense que si Lens fait 6e ou 7e place cette saison, faut pas tout brûler, quoi. Et du côté des supporters, faut quand même donner de l'amour à ces joueurs qui ont fait des très très belles choses sur les deux dernières années. Et je trouve qu'ils ont un peu la mémoire courte.
Écoutons Julien, supporter lensois qui a fait le 32-16. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue dans Génération After. Supporter lensois, t'es à Bollard ou pas samedi soir?
Oui, alors moi j'étais
T'as
à Bollard.
Sifflé?
Non. Puis je pense que si c'était arrivé, très sincèrement, je me serais fait casser la gueule parce que je suis quand même dans une section. Donc c'est pas trop l'esprit. C'est plus sur les niveaux au-dessus que ça a sifflé. Alors moi, de toute façon, je siffle jamais les joueurs par principe, mais je voudrais à la fois défendre Ouaï et à la fois une partie du public. Défendre Ouaï parce que il est encore très jeune, parce que de toute façon dans le monde actuel du foot, les attaquants ne valent pas le prix de leur transfert. Il a trop de pression sur lui et en plus de ça, moi je pense que d'un point de vue sportif, il correspond pas totalement au profil qu'il recherchait et que c'est un recrutement qui reste à la va-vite en fin de saison, euh, en, en fin de mercato, pardon, parce que l'EDS de l'époque faisait pas forcément le boulot. Après, je voudrais aussi quand même défendre le public, parce qu'un public, ça a le droit de siffler, mm-hmm. et parce que c'est pas la première fois de l'histoire de Bollard qu'on siffle. En Ligue 2, des sifflets, il y en a eu. Avant la Ligue 2, même l'année du titre, je crois qu'il y a un match où il y a eu pas mal de sifflets aussi. Bollard, c'est un public qui reste exigeant. Historiquement parlant, il est totalement faux de dire que Bollard n'a jamais sifflé et que d'un seul coup, le stade se serait embourgeoisé depuis cette fameuse saison dernière. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, moi, je suis quand même, je vais à Lens depuis plus de 20 ans. Ça a déjà sifflé une paire de fois, y compris sur notre histoire d'avant, avant la première descente. Donc, je pense aussi que Bollard a le droit d'être exigeant. Il l'a toujours été. Et je pense que ce qui est important pour les supporters et qui fait un peu défaut chez Ovi, c'est la question de l'état d'esprit. Ce qu'on lui reproche, c'est pas forcément tous ses ratés contre Clermont, et Dieu sait qu'il y en a une paire. Je pense que c'est surtout ce qu'il renvoie. Je pense qu'il renvoie quelque chose qui plaît pas forcément aux supporters lensois, qui peut expliquer une partie.
Ouais, c'est plus l'attitude finalement que les performances, quoi. Vas-y, Julien. Allô, Julien, es-tu avec nous?
Oui.
Oui, vas-y, vas-y, je te laisse finir.
Après, plus globalement, moi, je pense qu'il ne faut pas s'attendre évidemment à une qualification en Ligue des Champions chaque année. Et je pense que les supporters lensois sont très conscients qu'on va progressivement rentrer dans le rang. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une exigence sportive qui soit corrélée aux exigences économiques. On a quand même un bon budget, il y a encore des nouveaux investisseurs qui viennent de prendre des parts à Lens. Donc je pense que si chaque année on a pour ambition de finir 5, 6, 7e, c'est totalement corrélé aux réalités économiques du club. Et surtout, point très important, il faut quand même être un minimum exigeant, parce que la clé du projet sportif, c'est Francaise. Et je crains que si on n'arrive pas à accrocher à minima une place en Conference League, j'ai peur qu'il s'en aille. Et je pense qu'il faut vraiment tout faire pour le garder, parce que c'est lui l'homme de la situation.
Après, c'est un sujet qu'on va évoquer aussi.
Il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu.
Ouais, Lens, 6e de Ligue 1, pour l'instant largement dans les temps. Merci Julien d'être venu dans Génération After. Avant la pause, rapidement, encore un but à Auxerre, Fred Joly.
Exactement, la JOCR se rassure, la JOCR déroule avec cette petite passe décisive, un bijou de passe de Ravelosson dans la profondeur pour Aïe qui va seul au but, petite balle piquée par-dessus Samassa, et la JOCR mène maintenant 2-0, deuxième but signé Florian Aïe.
Allez, pause dans un instant, Génération After, on va parler de Vitinha, vie de Walid et de Barcola également, que Simon veut voir absolument à l'Euro, la suite de la soirée Ligue 2. Reste avec nous, c'est RMC, à tout de suite.
Génération After.
RMC. Faut être clair, messieurs, hein. Si c'est Ronaldinho qui fait ça fait le tour des télés du monde. Ouais. C'est Damien Perkis.
C'est Perkisinho.
On sait très très bien ce que représente le Real Madrid sur le marché des transferts. Peut-être que le Real Madrid a envie de sauter la banque.
Certes, non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, avec Walid Acharchour et avec Damien Perkis, on est ensemble jusqu'à 22h. C'était quoi ce commentaire là, Damien? Souvenir?
C'était un but avec Sochaux, mon retour à Geoffroy Guichard.
Dis-le,
il est humble, Damien. T'as mis un but de 40 mètres.
C'était anecdotique, ouais. Après, il y en a qui disent que je n'avais pas fait exprès, mais il y en a d'autres qui ont dit que j'avais fait exprès.
Et toi, tu dis quoi?
La réalité, c'est quoi? Je regarde pour moi la vérité, mais forcément que mon pied ne me ment pas, donc c'était fait exprès.
Damien est avec nous ce soir. La Ligue 2, il y a eu des buts pendant la pause. Allons notamment à... il y a eu un but au Auxerre ou pas? Non, 2-0 toujours pour Auxerre. But de Caen surtout. On voit ça avec Edgar Grelot.
Oui, 1-0 pour Caen face à Annecy. Le but de d'Ali Abdi. Ça bouge aussi à 3 puisque c'est Pau qui ouvre la marque grâce à Charles Bolli. Et enfin, 3 buts hein, pendant la pause avec l'ouverture du score de QRM face à Amiens. But de Pierret sur le reste des pelouses. 0-0 partout.
Mais toujours 2-0 pour Auxerre face à Laval. 0-0 entre Guingamp et Angers. Bordeaux-Dunkerque, 0-0 également. On ira dans quelques instants. Avis de Walid Acharchour ce soir dans Génération After, qui voudrait faire un mea culpa. Alors certains diront, notamment sur Twitter, tiens, c'est pas le 18e mea culpa de Walid cette saison?
18e, je sais pas, mais oui, il doit en avoir, ouais. Mais c'est ça l'honnêteté, non?
Ben oui. Une preuve d'humilité,
mais reconnaître ses erreurs, c'est très bien.
Le problème, c'est que si on s'en fout.
Le problème, c'est que si on fait des mea culpa tous les 15 jours, après, notre parole n'a plus aucun sens.
Ouais, enfin, si on s'enfonce dans nos combats, on va dire oui, t'es malhonnête, etc. Tu veux pas voir la réalité en face. Par contre, quand on fait des mea culpa, on nous dit pourquoi tu fais des mea culpa.
Alors, il concerne Vitinha, ce mea culpa, Jingle Walid.
Voilà, on a retrouvé une équipe compétitive, c'est pas extraordinaire. Hein. Fred Antonetti n'invente pas l'eau chaude, encore une fois.
Oui.
Pourquoi?
C'est l'eau tiède.
Ah, c'est l'eau tiède?
Oui, oui. L'expression, c'est l'eau tiède.
Très bien, bah, je note.
Tu la notes. Vas-y, Walid.
Il entre au top 50, celui-là.
Bon, il y est déjà, tu as vu, il y a même déjà un jingle.
Ah, t'as fait mieux, hein.
t'as fait mieux je pense.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
T'as fait mieux.
Ouais. Bon. Non, je voulais parler de Vitinha. Bien évidemment qu'on en a beaucoup parlé cet été. Est-ce qu'il allait prendre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain à son compte? Moi, j'avais toujours, j'ai toujours émis des doutes sur le fait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, par rapport à ce qui se faisait de mieux, notamment en Europe, pouvait me poser pas mal de questions, que ce soit en qualité, voire même en densité, sur les recrutements de Ugarte, sur Warren Zaïre-Emery. Est-ce qu'il allait s'imposer à son jeune âge, et si on n'allait pas le surresponsabiliser dans cette saison-là? Fabien Ruiz, Carlos Soler, celui qui était le plus en avance dans tous ces joueurs-là, c'était bien évidemment Vitinha. Mais j'attendais de voir dans ce rôle de leader en milieu de terrain, et force est de constater que moi, cette année, il m'a bluffé. J'attendais de voir et j'ai vu. J'ai vu une qualité de leader. J'ai vu deux buts très très importants, à un partout, à l'aller et au retour, qui ont fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Je trouve que dans son rôle de numéro 6, il y a beaucoup de débats. Numéro 6, numéro 8, je trouve que face au jeu, il joue beaucoup plus vers l'avant. Il a cette capacité à sortir du pressing et d'apporter sans ballon et avec, ce que je ne trouvais pas exactement au poste de numéro 8, où parfois il était un peu frileux, parfois il jouait un peu de manière latérale. Et moi, je suis totalement conquis. Déjà, c'est un joueur qui, techniquement, quand il est arrivé de Porto, on disait ça pouvait être le chouchou du Parc des Princes, parce qu'il a quelque chose balle au pied. Mais dans tout ce que ça comporte, être le leader du milieu de terrain du PSG, il m'a totalement bluffé, et je ne le pensais pas à ce niveau-là. Je pensais que même en termes de personnalité, ça pouvait être un joueur qui s'efface dans les gros rendez-vous, qui ne prend pas son... qui ne pouvait pas répondre au statut qu'il avait. Et ça n'a pas été le cas. Ça a été l'un des meilleurs, notamment contre la Real Sociedad en deuxième mi-temps, quand Luis Enrique l'a changé de place au poste de numéro 8, au poste de numéro 6. Et là, sur la double confrontation, pour moi, il est top 3 du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique l'a aussi fait beaucoup progresser. Il en a parlé dans ses interviews. Mais voilà, je voulais en parler ce soir. Il y a un devoir d'honnêteté là-dessus. Et globalement, même le milieu de terrain, où j'attendais, et j'attends toujours. Mais Vitinha, franchement, chapeau. Chapeau, et on attend confirmation aussi contre Dortmund. Mais pour l'instant, moi, je suis conquis, et je rentre définitivement dans le train.
Damien, es-tu conquis également? Est-ce que tu es surpris également par l'évolution de ce joueur?
Surpris, non, parce que je pense qu'il y a toujours la progression à prendre en compte au fur et à mesure de la saison. Moi, après, je pense que son début de saison, il a été marqué par le gros début de saison de Ugarte, en position de sentinelle, qui avait donné l'unanimité, en fait, à Ugarte pour pouvoir rester à ce poste-là. Et finalement, quand on a vu qu'Ugarte a baissé un peu le pied, il a fallu trouver une solution de rechange. Et pour moi, et c'est là où je rejoins Walid, c'est qu'en position de sentinelle, quand il est face au jeu, il est bien meilleur, avec une visibilité beaucoup plus élargie. Quand on a un poste de relayeur de numéro 8, on va le voir peut-être plus axé sur un côté, à vouloir jouer forcément sur son côté ouvert. Là, il a vraiment tout le champ devant lui pour pouvoir jouer. Et puis, il y a cette prise de responsabilité, être capable d'aller se projeter dans la surface de réparation et de pouvoir marquer les buts qu'il a marqués, aussi importants. Voilà, je pense qu'il a pris une place qui est la sienne. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est le leader technique de ce milieu de terrain. C'est celui qui fait vivre le milieu de terrain et qui permet aussi aux autres d'être bons. Même si Zaïre Emery, je pense, a baissé un petit peu le pied, et que Fabian Ruiz redevient un petit peu le Fabian Ruiz de Naples. Voilà, pour moi, je trouve qu'il y a quand même une progression chez lui, mais il y a une marche.
C'est mieux.
Je trouve qu'on va un peu plus vers le
Fabian Ruiz. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au début de saison, parce que Warren Zaïre Emery était incroyable en début de saison, il l'est moins. Même si, attention, il aide bien Vitinha.
Ah, moi, je trouve qu'il lui fait du bien.
Quand il monte, il fait un peu l'escalier, il redescend.
Ouais, après, ça, c'est logique.
Mais Ugarte était très très fort le premier mois, en tout cas, allez, on va dire un mois et demi, deux mois, avant que la Ligue des Champions nous ouvre les yeux sur ses qualités techniques, notamment à l'extérieur. Sans Ugarte, avec un Warren Zaïre Emery qui est rentré un peu dans le rang, c'est lui qui tire le collectif vers le haut. C'est ça, en fait.
Qui assume le jeu, en fait, même de... Quand on les voit repartir de derrière, souvent, on avait vu toutes les difficultés, notamment à Newcastle, où ils avaient cherché à repartir de derrière, ça avait été nul. Ben là, ils sont capables, avec Vitinha, d'avoir autre chose et de proposer autre chose dans l'élaboration du jeu, et je trouve ça intéressant.
Son match contre le Barça, à l'aller, où il fait un match incroyable. Le match contre Lyon qu'il fait dimanche, et même la deuxième mi-temps contre le Barça, où c'est lui qui met le deuxième but, moi, à ce moment-là, j'ai tout compris. Là en fait, t'as la palette d'un joueur qui me convient totalement, c'est-à-dire avec, sans ballon, et vraiment, ouais, chapeau, franchement, chapeau.
Simon.
Bon, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. C'est un mec qui fait gagner son équipe, déjà, pour commencer. Le repositionnement a été bénéfique parce qu'il a confirmé ce qu'on pressentait, à savoir que même si c'est un petit peu péché de dire ça à Paris, on sentait qu'il était un peu verratiesque, notre ami Vitinha. Il a du sang glacé dans les veines. Il y a ce genre de milieu de terrain, tu sais, le temps ralentit lorsqu'il a le ballon dans les pieds. On savait qu'il était très très fort dans les petits espaces, mais dans cette position de sentinelle, très souvent il est confronté au premier pressing adverse, et effectivement il a cette magie pour s'en sortir et pour éclairer le jeu, parce que voilà, petit dribble dans les petits espaces, derrière le jeu s'ouvre et il la lâche un petit peu plus rapidement, je pense, que Verratti. Il est à la conclusion des actions, ce que faisait pas non plus le hibou, et il n'y a pas grand-chose à dire. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse, je pense qu'il a quand même besoin de mecs devant lui qui passent le burin sur le milieu de terrain adverse quand même. Je pense que le volume d'un Zaïre Emery lui fait du bien.
Oui, non, bien sûr, mais je dis juste que la dynamique, elle ne plaide pas pour Zaïre Emery, même si, attention, il a quand même un niveau, il a toujours un niveau, ça va être du 5 sur 10, quoi. Parfois un peu 4 quand il est un peu moins bien, mais j'ai juste que c'est lui qui tire le collectif vers le haut, et je l'imaginais pas. Je l'imaginais pas aussi bluffant sur ce type de match. Et quand tu fais tout le packaging, c'est-à-dire capacité à jouer vers l'avant, à relancer, quand on sait que c'est très très important aujourd'hui dans le foot de haut niveau de contrer un pressing adverse, et il l'a fait, notamment à plusieurs reprises. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur joueur dans l'effectif dans ce domaine-là. Pour essayer de ressortir les ballons. Venez me chercher, les gars, vous inquiétez pas, je vais pouvoir trouver Fabien Ruiz, Dembélé, Hakimi très très rapidement. Et puis derrière, salir le short plus être décisif. Bon, c'est dur quand même de trouver des défauts.
9 buts cette saison déjà.
Ça, il a une appétence quand même pour l'offensive, le fait de marquer des buts. Il reste plus qu'un problème à régler. Il est capillaire. Voilà. Il faut qu'il se trouve
coiffeur
dans la capitale.
Tu nous fais une Daniel là. C'est quoi le truc?
Pourquoi? C'est un...
Mais dis-moi, qu'est-ce qui te gêne dans sa coiffure?
Je sais pas, c'est un problème. Il y a quelque chose qui va
pas.
Oui,
mais ça l'empêche pas de jouer au football.
Il faut un style capillaire.
D'accord. Quand tu veux, toi, il faut qu'il y ait du style.
Ouais, il a son truc, non?
Damien, t'es d'accord avec ça ou pas? C'est important. Ça fait le joueur aussi.
Moi, je vais pas parler de cheveux, moi, ici.
Mais c'est capillaire. Ouais. C'est pour ça que t'as pas posé la question à Walid, non? Mais ouais, ça n'a rien à voir. Moi, c'est franchement. Et en plus, je réponds à cette question, mais.
Comme si j'étais au premier degré, les gars.
Tu faisais en sorte de
pas
bien soigner quand même.
J'étais pas celui qui
se coiffait.
C'était pas le plus coquet.
Non, non, non. Peut-être avant de sortir sur le terrain, mais pas quand j'étais sur le terrain. Pause, on prend le chavetier dans un instant. Appelez-nous 32-16 supporters parisiens. Où placez-vous dans la réussite de la saison parisienne, bien sûr? Est-il votre top 1, top 2 parisien cette saison? Vous nous appelez au 32-16 pour en parler. La Ligue 2. Est-ce qu'il y a eu des buts, Edgar Grelot?
Pas de nouveaux buts à signaler, mais un carton rouge. D'accord. À Caen, carton rouge côté Annecy pour Romain Pajot pour un tacle complètement raté, carton rouge direct.
Auxerre Laval, Fred Joly, le temps, le score.
Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période et la Auxerre a fait le break, il mène 2-0. Lomami, le défenseur contre son camp pour Laval, et puis le deuxième but auxerrois signé Aillé, 2-0 pour Auxerre.
Guingamp, Angers, Xavier Grimaud.
Et toujours 0-0, c'est plutôt équilibré avec les meilleures situations malgré tout pour Guingamp. La dernière en date avec un bon débordement de Merguem centre au premier poteau, et Victor Lobry qui voit sa frappe qui passe au-dessus des buts de Yaya Fofana. 0-0 entre Guingamp et Angers.
Et Bordeaux-Dunkerque, Nico Paul Orsi.
La demi-heure de jeu 0-0, hein, grosse domination des Bordelais avec Dunkerque qui joue très très bas. Il y a eu plusieurs occasions, mais pas de but pour l'instant. Ils sont maladroits devant, les Bordelais, à l'image de leur saison. À noter que les banderoles sont sorties, hein, côté supporters. Vous méritez un stade à l'image de votre saison vide. Nous ne soutenons pas un club qui nous abandonne. Grève des supporters ce soir à Bordeaux. Il y a vraiment tout qui part un peu en sucette. 0-0 la demi-heure de jeu.
Et Arsenal mène 1-0 face à Chelsea après 15 minutes de jeu, but de Leandro Trossard. Arsenal leader virtuellement de Première Ligue avec deux matchs en plus par rapport à City, troisième. Reste avec nous, la suite de Génération After dans un instant sur RMC, 21h16, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Avec Damien Perkis, avec Simon Dutin, Walid Acharchour. Merci d'écouter RMC, merci d'écouter Génération After. On parle du PSG, on parle de Vitinha après l'avis de Walid, hein, qui est bluffé par l'évolution du milieu de terrain portugais. D'abord la Ligue 2. Encore un but à Auxerre, Fred Joly.
Oh, des Auxerrois intenables après deux matchs catastrophiques. Eh bien, ils se sont réveillés. Ils sont en train de faire le plaisir des supporters auxerrois. Le troisième but, l'ouverture, elle est signée Perrin en profondeur pour Aillé, qui, une nouvelle fois, n'a pas tremblé face à Samassa. Et le ballon au fond du but lavallois. La JOC mène 3-0 après 35 minutes de jeu.
Et toujours 0-0 entre Guingamp et Angers, entre Bordeaux et Dunkerque. Un but a été marqué à Quevilly, Edgar.
Oui, avec l'égalisation d'Amiens, signé Mafouta, un partout entre QRM et Amiens. On rappelle les autres scores après 35 minutes. 0-0 entre Bastia et Concarneau, 1-0 pour Caen face à Annecy. 0-0 entre Grenoble et Saint-Etienne, un partout donc entre QRM et Amiens. 0-0 Rodez-Paris, 1-0 pour Pau à 3 et 0-0 entre Valenciennes et Ajaccio.
Vitinha, on parle de Vitinha du PSG dans Génération After. Je regardais tout à l'heure, on peut parler l'émission. Troisième temps de jeu du PSG, Vitinha. 41 apparitions sur 45 matchs possibles. Tiens, d'ailleurs, je regardais aussi, on en parlait avec Walid. Vous savez qui, Walid connaît la réponse, qui est le joueur gardien confondu qui a le plus de temps de jeu au PSG? Selon vous, Simon, Damien?
Non, j'aurais dit Hernandez.
3374 minutes.
Danilo.
C'est Kylian Mbappé.
Hein?
Voilà.
Tous ces débats pour aller arriver.
C'est Kylian Mbappé qui joue le plus au PSG.
Qui joue plus sous Luis Enrique.
Sous Luis Enrique, mais il le déteste. Mais comment il fait? Mais il l'insulte à tous les matchs. Il lui manque de respect.
Tu vas te faire insulter par quelqu'un qui t'écoute peut-être ce soir. Et qui sera là à 22h. C'est pas impossible. Mbappé, voilà, numéro 1 temps de jeu au PSG. 3374 ouais, minutes. Devant, là, même devant Donnarumma. Non. Ça, c'est rare quand même.
Mais devant le gardien numéro 1.
Plus que le gardien numéro 1 du PSG.
Mais on envoie les
c'est vraiment qu'il aime pas, Luis Enrique.
On envoie les chiffres à 22h dans cette émission ou pas? Non, mais sérieusement, il y a quelque chose.
C'est ce qu'on va faire là. J'ai la stat. Je vais la mettre à la place de Daniel Gauthier.
Ouais, on va le mettre là. On va le mettre là. Mais ça ne m'intéresse pas ce débat, Walid. Ça ne m'intéresse pas ce débat, Walid. Tu ne comprends rien.
Et à Monaco,
tu comprends rien.
Mais temps il le sort. Bref, voilà. Bon, c'était une info que je voulais vous donner. Troisième temps de jeu pour Vitinha, c'est la preuve de la confiance que lui accorde Luis Enrique. Et tiens, je vais accueillir Thomas au 32-16. Salut Thomas.
Salut Nico.
Supporter
salut à
du PSG.
Salut,
bienvenue Thomas. Dans Génération After sur RMC.
Bon, Walid, t'as pas le droit à tes bidons Walid encore, toi.
Non, ça c'est Flo, ça. Hein.
C'est
Flo, ça.
Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis à Walid, t'as pas le droit encore.
Non, ils sont plus sur la même ligne, tous les deux.
Moi, pour le coup, je suis bidon, donc il n'y a pas besoin qu'ils me le disent.
Ah, voilà, d'accord.
Il a déjà fait un été de merde l'été dernier.
Ah, ça, l'été de merde.
Je sais pas, tu vas être meilleur l'été prochain. Ouais,
là, je me prépare uniquement pour l'été.
Bon, Thomas, il n'y a pas de débat sur Vitinha, c'est sûr. Le débat qu'on pourra avoir éventuellement, c'est Walid le préfère en 6 qu'en 8. Voilà, exactement, quoi. Toi, bon, c'est incontestable pour toi, c'est surtout un 6.
Bah moi je pense qu'il se prête vraiment à ce rôle et il l'assume très 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 bien et je pense que de toute façon en fait c'est notre meilleur 6 en fait pas par défaut mais parce qu'il montre en fait sur le terrain ces derniers temps et dans son profil et sur ce qu'il propose. Alors oui, peut-être que je sais que Daniel milite pour le mettre en 8 absolument, mais je le garderai dans cette config là parce qu'il est très 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 intéressant et notamment ce qu'il a montré contre Lyon. Je pense qu'il n'y a que lui aujourd'hui au PSG qui fait ressortir la balle, aller de façon un peu pour les nostalgiques, à la Verratti.
Ce qu'il fait sur le quatrième but, là.
Voilà, mais à un moment aussi, c'est qu'il élimine deux joueurs, il élimine Kakré en faisant un tour sur lui-même et il casse une ligne, en fait, avec deux joueurs supplémentaires en faisant une passe pour Warren. Et là, Warren peut éclater et se projeter. Et c'est typiquement, à mon avis, ce qu'il faut continuer de faire, en fait. Dans les prochains matchs avec Paris, c'est là que tous tes joueurs sont intéressants parce que Warren, c'est là où il est intéressant quand il se projette aussi. Donc Vitinha, il est monstrueux et moi je suis surpris, je le disais aussi à Max au standard, c'est de par son gabarit, malgré son gabarit, en fait, le nombre de ballons qu'il peut récupérer, il se place extrêmement bien. Il est toujours là à sentir, à anticiper, à bien se placer et après il relance très très vite. Il joue, il donne, quand il faut accélérer, il accélère. Quand il faut temporiser, il temporise. Il remplit ce rôle de 6 merveilleusement. Alors, on peut débattre. Certains vont dire qu'il faut le mettre 8 absolument, etc. Mais moi, je pense que...
Si tu as un Bruno Guimarães qui arrive cet été, un Enzo Fernandez, là, je regarde Arsenal-Chelsea, devant la défense, bon, ça va coûter très cher. Mais bien évidemment, tu me le remets en numéro 8. Mais cette année, quand on voit les matchs d'Ugarte à Newcastle et à l'AC Milan, quand on voit les matchs de Fabian Ruiz première mi-temps contre la Real Sociedad où tu t'es fait tourner, et quand tu vois les matchs de Vitinha au poste de numéro 6, si personne ne voit de différence quand même dans le jeu du Paris Saint-Germain pour ressortir les ballons, bah là, il faut changer d'opticien, ou faut changer de télé, ou faut changer de chaîne, parce qu'il faut mettre la bonne chaîne. Parce que sincèrement, moi, je vois une énorme différence. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, alors attention, ça, c'est pas un avis tranché. Je me pose cette question-là. Je me dis que quand il est 8, parfois, il est souvent dos au jeu. Parfois, il est obligé de se retourner, de mettre...
Et sur un seul côté du terrain.
Ouais,
si c'est
voilà. Là, moi, je trouve qu'il a plein de perspectives avec le ballon. Alors, comme l'a dit Simon, faut qu'il soit protégé aussi, hein. Peut-être un joueur avec un gros volume à côté. Mais moi, ça me plaît.
Et pourquoi pas un joueur plus haut dans l'axe, hein, pas sur un côté, pas en 8.
En 10, non, Damien. En 10, ça va pas fonctionner non plus.
Non, je pense pas, parce qu'il va être beaucoup plus dans le défi physique aussi. Dans la densité. Et est-ce qu'à un moment donné, il va pouvoir répondre à ça, avoir vraiment, soit des centraux qui vont sortir fort sur lui et sentir que, comme on dit, ça tape au cul, ça va être compliqué. Non, moi je pense qu'il lui faut vraiment ce profil où il y a personne à côté de lui et que ce soit lui, le dépositaire du jeu à la ressortie de balle et cette vision de pouvoir organiser le jeu et que derrière lui, il puisse aussi se projeter parce qu'il en est capable, il a le coffre physique pour pouvoir le faire. Moi je trouve que en numéro 6, c'est très bien pour lui.
C'était qui ton meilleur numéro 6 toi devant toi que t'as eu?
Le meilleur avec qui j'ai joué et je lui fais un gros coucou, c'est Kevin Anin s'il nous écoute.
Ah oui, bien sûr.
Kevin, à l'époque, à Sochaux, c'était vraiment monstrueux.
Je pas le soyeux également. Il a tapé à la porte.
Ouais. Et il était parti à Nice avec la FUL. Ça a été vraiment le.
Un vrai aussi.
Ouais, techniquement, très fort et puis un monstre de la nature physiquement.
Donc, c'est quoi la génération à Sochaux déjà pour les plus petits?
Marvin Martin, Boudbouz, Bronny Day. Modibo Maïga,
Francis Gillot,
Jérémy Bréchet,
Maurice Bellet,
Nicolas Maurice Bellet.
Ouais. À gauche, il y avait Boukari Dramé.
Vous finissez quatrième, non, cette année-là?
Cinquième, ouais.
Cinquième.
Et David Sogé à droite.
Il y avait du ballon, quoi.
À domicile, on en a fait souffrir quelques-unes, et à l'extérieur aussi, notamment à Bordeaux, juste pour vous rappeler.
Ah, t'as déjà pris la température sur les affinités de.
Ouais, j'ai cru qu'on
pouvait les Girondins.
Les Girondins
étaient. T'as rien fait au Red Star.
D'ailleurs, Bordeaux a marqué, Nico Pollorsi.
Ouais, Bordeaux a marqué, un très joli but. Hein. Et que c'est, franchement, dans la construction, c'est mérité sur ce que proposent les Girondins depuis le match.
Voilà, Rira, alors.
Bah oui, la patrie Rira.
C'est un génie, Rira, personne ne comprend.
J'ai bien compris. Vous comprenez dans 100 ans.
Alors franchement, il y a des bonnes choses quand même à Bordeaux dans le jeu.
Le but, lui, hein.
Bon voilà, après c'est compliqué au niveau des individualités et de l'effectif aussi qu'il a à sa disposition. En tout cas, ce but il est beau, le passe décisif de Gaëtan Vesbeck et la reprise de volée super instinctive de Vipotnik qui mine de rien marque son 9e but de la saison. Ça fait du bien aux Girondins qui continuent de se ruer à l'attaque. En tout cas, ils ont une attitude positive malgré le contexte qui est très pesant au stade ce soir. 1-0.
Allez, Bordeaux va aller chercher un bon maintien Ligue 2 là ce soir peut-être. But également entre Guingamp et Angers, Xavier Grimaud.
Exactement, l'ouverture du score pour le SCO il y a quelques instants, c'est un bugag, hein, avec une ouverture d'Abdelli en profondeur. Le ballon il est un petit peu fort et c'est Basilio le gardien qui fait une belle glissade pour la récupérer. Il voit qu'il va sortir de la surface, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche le ballon, Justin Kalumba, l'Angevin était juste là et peut enrouler dans le but vide. Du coup, il aurait mieux fait de concéder le coup franc à Enzo Basilio. Il a mal géré la force de l'ouverture d'Abdelli. Ça fait 1-0 pour le SCO qui n'était pas spécialement dominateur sur cette rencontre et qui prend l'offrande. Avec plaisir. 1-0 pour les Angevins. Il reste 3 minutes avant la pause.
Y a-t-il eu d'autres buts de Edgar Groulot sur les autres pelouses?
Oui, l'ouverture du score de Rodez face au Paris FC.
Rodez,
le but contre
incroyable.
Son camp de Timothée Kolodziejczak. C'est un match très important hein, puisque Rodez 5e joue le Paris FC 4e. On le rappelle, le 5e est qualifié pour les playoffs pour pouvoir monter à la fin de la saison. Et puis 3 s'est vu refuser un but. 3 qui est mené 1-0 par Pau.
Le 5e démarre l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'en fait,
ce qu'il
va faire, c'est qu'il va jouer contre le 4e, ensuite il va jouer contre le 3e.
Il y a une boule de feu qui arrive dans l'entraînement, il faut que tout le monde l'évite.
Il lance 3D, s'il fait 3 x 6, il peut jouer le 3e.
Il joue sur une jambe le barrage contre la Ligue 1.
Exactement.
Voilà,
avec 3 matchs à l'extérieur.
En tout cas, Rodez,
après, ils monteront en Ligue 1 à ce moment-là.
Rodez, c'est quand même fou.
Ah oui, c'est dingue.
Les gars, c'est la réussite de la saison en France.
Jusqu'où ça
arrive? Et à Rodez en France. Mais c'est fou.
Ouais, c'est bon. Incroyable.
Thomas, merci d'avoir fait le 32-16. Tu voulais rajouter quelque chose? Tu peux?
Non, écoute, j'espère que Vitinha continuera à performer de cette façon et nous emmènera. Je ne veux pas porter malheur, mais continuer ses performances et je souhaite ça à tous les supporters du PSG en tout cas.
Et dans une semaine contre le Borussia Dortmund notamment. Thomas, bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. N'hésite pas à nous rappeler dans un instant. Tiens, on va prendre un autre joueur du PSG, Bambi. L'agneau est en train de devenir quoi? Ce serait quoi l'équivalent? Un lion peut-être?
Carnassier,
si tu veux, c'est plus large. Simon va en parler, c'est l'avis de Simon à venir dans Génération After. Il veut Bradley Barcola à l'Euro. Et d'ailleurs, je crois que Damien veut faire un mec ou pas lui aussi ce soir.
Un tigre, non?
Ouais, plutôt un tigre.
Un lion, il n'est pas encore méchant.
Ouais, pas méchant, c'est pas un lion.
Ouais, c'est un tigre.
Tigrou quoi.
Ouais, un tigrou, ouais.
Tu préfères tomber sur un tigre qu'un lion? On est sûr que c'est beaucoup mieux, ouais.
Non,
sinon, qui est le rapport entre l'hippopotame
et. Ouais, on est là.
On est sur National.
Il commence à comprendre le principe de l'after. Dès le premier soir, il a capté. Il a pas accroché sur le débat coiffure.
Ouais.
mais ça va venir.
Il fait un très bon, il fait une très bonne heure et demie.
Allez, en général, il est plongé en fin de match. Il a pris des buts en temps additionnel.
Les entraîneurs ont toujours dit c'est les 5 dernières minutes qui sont les plus importantes sur ta note à l'équipe.
Allez, reste avec nous, c'est Génération Alter sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Butin, Walid Acharchour et Damien Perquis sur RMC dans Génération After, 21h32. N'oubliez pas, à 22h, l'After prend le relais avec Gilbert, Daniel et Flo Gautreau et Sébastien Bassong, hein, qui sera là ce soir également, et qui est avec nous notamment à Abidjan pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours intéressant, Sébastien, ami de l'After, qui est venu aussi à la Coupe du Monde de Qatar nous voir en studio. Il sera là dès 22h, il fera les 2h ce soir, ancien joueur de Tottenham notamment. La Ligue 2, un but a été marqué entre Guingamp et Angers, Xavier Grimaud.
Ouais, l'égalisation guingampaise après l'ouverture du score de Raoul Issoa avec une superbe passe hein, dans la profondeur de Sidi Bé. Baptiste Guillaume qui bute une première fois sur Yaya Fofana. Il a un peu de réussite, le Belge. Ça lui revient sur la jambe et il égalise dans ce match. Il n'a pas célébré son but, lui, l'ancien Langevin. Et ce 1 partout à la pause. La pause est sifflée à l'instant et assez conforme au match. C'était un peu dur pour les Guingampais d'être menés. 1 partout.
1-0 pour Bordeaux face à Dunkerque à la mi-temps. Nico Polanski est libéré pendant la pause. Mon cher Nico, on te retrouve tout à l'heure. Auxerre Laval, Fred Joly.
Là, Auxerre mène 3-0. Et c'est surtout que ça va devenir très très compliqué pour Laval, réduit à 10 après l'expulsion d'Antonin Bobichon. Il vient de s'essuyer les crampons sur le genou droit de Haillé, double buteur dans cette première période, puisque la Auxerre mène 3-0. Laval est réduit à 10. On vous rappelle les buteurs auxerrois, Lomami contre son camp et le doublé de Haillé, 3-0 pour Auxerre. Dans un instant, la mi-temps.
Un but a encore été marqué entre Quevilly-Rouen et Amiens, Edgar Grelot.
Ouais, et même deux buts, puisqu'Amiens vient de mettre le troisième à l'instant. Déjà le but sur pénalty de Mafuta. Et j'ai l'impression que là, Mafuta vient de s'offrir un triplé hein, sur cette action. 3-1 pour Amiens face à QRM, effectivement. Alors le ballon est contré, donc on verra si c'est un CSC ou un triplé. On fait le point quand même sur les scores à la pause. Hein, c'est la mi-temps presque partout. 0-0 entre Bastia et Concarneau. 1-0 pour Caen face à Annecy. Annecy qui en plus est réduit à 10. 0-0 entre Grenoble et Saint-Etienne. 1-0 pardon, pour Rodez face au Paris FC. 1-0 pour Pau à 3. Et 0-0 entre Valenciennes et Ajaccio à la mi-temps.
Bon, les leaders, hein, évidemment, Auxerre, 64 points. Angers, 2e, 59. Saint-Etienne, 58e à la pause de la 34e journée de Ligue 1. Rodez, 4e, 53 points. Comme Pau, 5e.
C'est le PFC qui sort de...
Exactement.
Des playoffs.
6e pour l'instant.
Pour l'instant.
Exactement. 52 points, un petit point. Il restera, quoi qu'il arrive, 4 journées derrière. Simon voulait parler de Bradley Barcola, mais pas seulement. Une surprise également dans la vie à venir de Simon Dutin. Oh, il veut voir Barcola, l'Euro. Jingle, Simon Dutin.
Bah, je suis déçu, je ne vais pas revenir sur l'Algérie, je ne vais pas tirer sur le corbillard.
Je commence à en avoir claqué quelques-unes sympathiques. Hein,
ouais, aussi, hein. Je ne suis pas encore au niveau de mon contradicteur favori. Mais,
je ne le souhaite pas.
Écoute. Oui, bon, alors je vais concéder tout de go que ce n'est pas l'avis le plus audacieux hein, quand même que j'ai pu.
Vends-le ton avis, dis pas ça.
Non, oui, comment ici, pas
mec,
ça.
Monte sur scène,
non,
le marché.
Attends,
bon, c'est pas le meilleur aspirateur.
Non, mais
il fait le boulot.
Je me mets à la place des gens qui nous écoutent, ils vont dire eh, merci gros, t'es mignon, mais bon.
Ne t'excuse pas, oui. Voilà, c'est pas grave.
Alors, c'est même pas que je veux voir Bradley Barcola à l'Euro dans la liste de Didier Deschamps, c'est que je sens bien un petit Bradley Barcola à l'Euro. Ah. Et on va me dire, tu as la même boule de cristal que moi à la maison. Parce que, au vu de ses dernières performances, de sa deuxième partie de saison, ça fait pas trop de doute. Bon, zéro sélection tout de même. Je me disais, c'est bizarre quand même qu'il ne l'ait pas appelé, il ne l'ait pas appelé et tout. En bossant un petit peu mon avis, là, pour muscler mes arguments, je tombe sur un papier des copains de l'équipe qui nous rappelle que, pour la dernière liste, Didier Deschamps interrogé, pourquoi pas de Bradley Barcola? Alors, vous l'aimez pas et tout. Il a fait de belles choses, répond le sélectionneur. Il a besoin de s'affirmer aussi dans le contenu. Alors, je ne vous cache pas que je suis resté un petit peu quoi devant.
Il a dit ça avant la finale.
S'affirmer aussi dans le contenu, c'est-à-dire, t'es bon ou t'es pas bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'il parlait de stats? Alors, s'il parlait de stats, effectivement, c'est pas dingo par rapport à. Même à ce que je pensais avant de préparer ça. Je crois que c'est pas plus de. Il a mis. Deux buts et six passes décisives.
Deux buts, six passes
c'est pas dingue. Mais bon, quand on regarde la dernière liste, bon, les attaquants pris par Dédé, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud, Marcus Thuram, pour moi, c'est garanti. Ils ont déjà leur chambre réservée à l'hôtel.
Bon, reste Kolo Muani et Diaby. Et bon, moi, je mettrais volontiers un Bradley Barcola à la place de l'un de ces deux. Je sais bien que Didier Deschamps valorise le vécu, l'expérience dans le groupe France. Bon, c'est un peu, tu sais, c'est comme le marché du travail, quoi. Si on te donne pas d'expérience, tu peux pas en avoir, et on te répond, bah du coup, on
ah, c'est comme embaucher nuit. Si tu rentres pas, tu peux pas devenir habitué, quoi.
Voilà, exactement. Merci, mon cher Walid. Alors, certes, les stades sont pas dignes, sont pas dingues, mais je trouve qu'il a quand même peu d'équivalent, ce jeune homme, dans le bazar qu'il est capable de mettre dans la moitié de terrain adverse actuellement. Il peut jouer à droite ou à gauche, il peut même, je pense, dépanner dans l'axe. Lorsqu'il était jeune, il a joué dans l'axe.
Un peu moins.
Il est capable. Non, mais je veux dire, oui. Bon, situation oui. Critique, tu vois, au cours d'un match. Les rares fois où on l'a vu marquer, il est capable d'être clinique un petit peu devant le but. J'aime bien quand il arrive de ce côté gauche, là. Il a une spontanéité, il peut finir les actions. Il défend, ce qui est important quand même pour un joueur de côté, a fortiori quand on connaît l'exigence de notre sélectionneur là-dessus. Je le trouve intelligent dans la transition, voilà, il porte pas trop le ballon, il est capable de la donner rapidement, de la faire sortir le ballon de ses pieds rapidement lorsque le jeu commande de faire ça. Et puis voilà, par rapport à la légende de l'équipe de France qui s'avance vers les grandes compétitions, il a ce petit côté, bon, selon les poncifs consacrés, le grain de folie, le vent de fraîcheur, tu sais, qu'on a besoin d'insuffler à un groupe, le petit nouveau qui
débarque. Ribéry, quoi, 2024.
Ribéry 2006, Valbuena 2010, Pogba 2014, Thauvin 2018. Tu sais, c'est trajectoire pour certains météoriques.
Thauvin, il n'a pas porté le grain de folie non plus, 2018.
Ouais, sauf qu'il a coupé sur la ligne, hein, Thauvin, parce qu'il fait une saison d'anthologie. En 2018, il fait une saison d'anthologie.
Il était bon Uno, mais... Ouais. C'est pas le grain de folie Ribéry 2006, quoi.
Non, mais tu parles au niveau du temps de jeu, de ce qu'il a apporté dans la compétition. Mais sauf qu'il est allé se la peler, sa sélection pour la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai qu'il a fait une grosse saison.
Ouais. Il fait une saison. Ah, mais extraordinaire. Ouais, il fait 20-18 DCC. C'est absolument monstrueux. Donc, je pense que notre ami. J'ai pas cité Shimonda quand même. Hein. Je suis pas allé jusque-là. Faut pas abuser. Mais ouais, je pense que.
T'aurais pu, c'est ton style.
Mais non, mais en revanche, je peux citer quelqu'un d'autre aussi.
Mais puisque tu l'as dit, la rédaction en chef, sachez-le, auditeur.
Attends, silence.
La rédaction en chef de cette émission m'a censuré.
Non, non, voilà. On t'a pas censuré. On a voulu te protéger. Mais on a voulu te protéger.
Oh, ça va.
Simon Duterte va voir Barcola Leroux et peut-être un autre joueur également. C'est maintenant qu'il faut le dire.
Je sens, je vois Barcola. Je vous annonce Barcola à Leroux. Et moi, je voudrais.
Mais bon, c'est bon, j'avoue.
Je voudrais Del Castillo, moi. Je voudrais qu'il prenne Castillo, un petit peu de French flair dans cette équipe. Un remplaçant naturel à Antoine Griezmann, le successeur d'un Nabil Fekir. Voilà, ce pied gauche, ce flair, cet instinct.
La chambre les yeux, j'ai écouté Grande Gueule du Sport le week-end. C'est incroyable.
Pourquoi on connaît ça. Moins le foot au Grande Gueule du Sport.
C'est la formule, le verbe.
Ah oui, la prose, mais.
Bon, faut donner la parole.
Et ça n'arrivera pas
à tes camarades. Damien Del Castillo, non?
Non, Del Castillo, non. J'aime beaucoup le joueur, mais je pense qu'il
fait une très grosse saison.
Il fait une très grosse saison, mais
après, il y a des limites quand même.
Il y a meilleur devant lui.
Alors, Barcola, tout à l'heure, on s'est appelé, tu m'as dit.
Vas-y, juste une petite aparté à Simon. Il en a oublié un en 2012.
Il prend Ben Arfa en 2012, mais
c'est pas lui la surprise. Dernière minute, quoi?
À l'Euro 2012.
Un attaquant?
Dernière minute.
Un attaquant?
Non, Schneiderlin.
Hein? Yann Villa?
Morgan Schneiderlin?
Non, Kaba, MJ là.
Il sortait d'une grosse saison.
Malouda, Marine
Martin. En Ligue 1
Marine Martin.
Martin, bien sûr.
Et il a mis un doublé contre l'Ukraine. Non, pas contre l'Ukraine. C'est un amical.
Fantastique.
Ouais, un amical.
Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse pour Marvin. On le salue. Jouer avec lui, on le salue.
Toi, tu m'as dit, si Walid fait un mea culpa.
Ouais, j'aurais été capable d'en faire un aussi. Parce que je l'aurais fait depuis mon canapé, en fait. Voilà, parce que c'est souvent que quand j'ai vu jouer le Paris Saint-Germain cette saison, je me suis dit. Aller poser 50 millions sur un gamin comme ça, qui arrive de Lyon, qui avait pas forcément, qui avait été bon, mais qui avait pas non plus percé l'écran et qui avait pas fait une saison complète. Je me suis dit, il faut en avoir pour les poser sur la table, les 50 millions. Et du coup, j'ai été un petit peu sceptique. Après, j'ai vu ses premiers matchs, j'ai continué à être sceptique. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, il me fait changer un peu d'avis. Je le trouve beaucoup plus simpliste dans sa façon de jouer. Je le trouve plus sûr aussi mentalement. Parce que je pense que ces mauvais matchs étaient à la base sur des débuts de matchs ratés
où techniquement il avait raté beaucoup de choses, notamment dans les dribbles, dans les transmissions avec ses partenaires. Et là, je pense que depuis quelques temps, il a pris confiance, il a une certaine confiance qui lui permet d'assumer ses envies d'aller dans le 1 contre 1, d'aller provoquer, d'aller réussir des choses. Et je le trouve bien mieux. Et en fait, je comprends pourquoi, même s'il est jeune et que les montants restent démentiels pour moi aujourd'hui dans le football, et on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément la valeur chiffrable qui est la valeur du terrain. Et
surtout quand c'est Paris qui passe à la caisse en
voilà,
plus.
Voilà, surtout quand c'est Paris qui passe à la caisse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Barcola et pour le talent futur qui peut avoir, et qu'il a déjà, mais qui peut avoir pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, à le voir en sélection. Je pense que Didier Deschamps a une forme de travail qui est vraiment basée sur le groupe, et c'est peut-être la malchance qu'il pourra avoir, c'est de pas intégrer quelqu'un d'autre justement dans la spirale de cette équipe.
Tu veux dire qu'il a pas forcément, il a pas le vécu,
le vécu ouais.
Ouais, et normalement il a pas le vécu, il a pas le côté voilà vie de château avec oui. les autres, il a pas tout ça, et je pense que ça peut être malheureusement un point négatif pour lui. Si on le met en comparaison avec un Kolo Muani qui avait été très bon quand il était rentré à la Coupe du Monde, à chaque fois qu'il était rentré, il a été bon. Bah, Deschamps va peut-être rester sur cet aspect-là, et un Diaby, bah, il peut apporter d'autres. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer derrière l'attaquant. Voilà, c'est des choses qu'on peut aussi apporter différemment. Alors
moi, j'ai une lecture différente.
Vas-y, Walid.
Moi, j'ai une lecture différente. C'est que déjà, je suis complètement d'accord avec Simon. Je l'ai déjà dit moi dimanche soir. Pour moi, je vois pas. Il y a pas un monde où Barcola n'est pas à l'Euro. Déjà en plus, qu'il y a eu l'information du jour, c'est qu'il y a 26 joueurs et pas 23 joueurs.
C'est pas encore confirmé. Ouais,
enfin, il y a une.
Ils sont en train de se mettre d'accord pour ça, oui, à l'UEFA.
Ça en prend la direction, et donc ça jouera en faveur de Barcola. Moi, je pense qu'il n'a pas pris Barcola sur le dernier rassemblement parce que Barcola était sur une dynamique moins forte qu'aujourd'hui, qu'il attendait de voir et qu'il voulait pas se créer des problèmes. Si je lis le Deschamps, et on l'a pratiqué quand même, il prend Moussa Diaby parce qu'il veut pas de problème. Comme il prenait Bouba Camara, comme il prenait à une époque Lucas Digne, j'aime pas à employer ce terme, c'est pas des joueurs bouche-trou, mais ces joueurs, ils connaissent un petit peu les rassemblements, parce qu'à l'époque, Moussa Diaby, il était remplaçant à Aston Villa. Donc, sportivement, il n'y avait aucun argument pour le prendre. Et là, et puis en plus, il se disait, si je rajoute une dernière chose, c'est qu'il se disait que Coman allait revenir de blessure. Donc, il allait prendre la place de Diaby, pas de problème. Là, Coman est blessé, il est out. Même si après, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer, etc.
A priori,
c'est rideau. Donc là, Moussa Diaby, exit Moussa Diaby. Là, il faut un mec qui peut jouer à droite, à gauche, qui est en pleine forme. Et en plus, il lui a... Comme tu parlais du mea culpa, parce que peut-être que lui aussi, il était un peu sceptique, ou il était pas assez conquis. Là, s'il n'est pas conquis avec une équipe du PSG qui est en demi-finale, voire plus, si affinité... T'es obligé de le prendre.
Et c'est ça, ouais,
surtout
juste
en plus, le signal que t'envoies, si tu prends Kolo Muani, qui est remplaçant au Paris Saint-Germain toute la saison, et Barcola, qui pète le feu, et qui, on sait jamais, hein, si on est positif, va en finale de Ligue des Champions, voire plus, bah, t'es obligé de le prendre.
Et ça vaut aussi pour la comparaison, d'autant plus avec Diaby. Parce que tu l'as rappelé, il a été remplaçant à Aston Villa, mais quand bien même il aurait fait toute la saison comme son début de saison et comme là les dernières semaines, bon, tu regardes un petit peu les altitudes auxquelles les deux oiseaux ont évolué cette saison.
Oui.
Bon, avant d'aller disputer une compétition comme ça, t'as envie de prendre le gars qui a brillé, parce qu'on se souvient, le déclic, il y a eu ce match contre l'OM où Luis Enrique le met titulaire, Barcola, il fait un match exceptionnel, à la fois dans l'animation, dans la provocation et le repli défensif.
Et puis quand tu regardes un ascenseur à équipe de France, Warren Zaïre-Emery, il a fait quoi? Un mois et demi. Il a été en équipe de France.
Oui, mais comme disait Damien, là, maintenant, il ne reste plus qu'une liste, et c'est la liste pour l'Euro.
Ouais, après, vision de 66 millions de sélectionneurs, comme on dit toujours, il y a toujours des sélectionneurs et tout, on parle comme ça. Mais si on est dans la tête de Didier Deschamps et qu'il veut de la stabilité, il va fonctionner avec un groupe, et ça lui a donné des garanties, sauf au dernier Euro où ils se sont éliminés par la Suisse. Il est souvent resté avec ces mêmes 23. Là, la liste, elle est élargie. OK, on peut penser. En tout cas, pour moi, il sera dans la préliste. Ça, c'est une certitude. On va lui dire, prépare ton sac.
55 quand même.
Ouais, mais bon, tu prépares ton sac. Et moi, quand je recevais la prélisse des espoirs, j'étais content. Mon sac était prêt.
Oui, oui.
Donc, si demain tu dis à Barcola,
c'est terrible, ton sac est prêt. Putain,
ton sac, il est prêt. Tes chaussures sont mieux lavées que quand tu vas jouer en championnat. Et t'es prêt, quoi. Donc, déjà qu'ils sont dans la préliste, moi, j'en suis sûr. Après, que je te le dis par rapport à la vision de Deschamps. J'attends de voir, parce que Deschamps, il aime avoir son groupe consolidé avec les mêmes joueurs.
Parce que Diaby, tu parlais de continuité, il n'était pas là sur les derniers rassemblements.
Non, il est venu
parce que Coman était blessé. Hein.
Ouais, mais il a été avant.
Tu vois,
il est censé être excellent, c'est lui qui pense, c'est lui qui rappelle.
Avant la Coupe du Monde, avant l'Euro.
Il fait pas d'histoire, il est là, on va pouvoir le poser sur le banc.
Barcola, il va pas faire d'histoire s'il est pris.
S'il est pris, je vois pas pourquoi il va faire
d'histoire non plus.
Il va donner la place de Mbappé, Barcola.
Mais c'est dans la façon de manager de Deschamps, je pense que c'est.
Et puis s'il gagne la Ligue des Champions, s'ils vont en finale avec Mbappé en neuf, Barcola à gauche, ça peut pas donner des idées aussi s'il y a un Giroud qui est un peu fatigué, s'il y a un Kolo Muani ou un Marcus Thuram pas fringant, et ben moi sincèrement s'il ramène pas Barcola alors que Barcola le mérite sur le terrain, moi je critiquerai Deschamps.
Bon, le mérite.
Non, mais je critiquerai.
En tout cas, Deschamps n'est jamais adepte des listes allongées. Hein. Il n'avait pas pris même pas 26 quand il pouvait le faire. Récemment, ce sera 23 ou 24.
Il a fait aucune grosse compétition, non, Diaby ?
Moussa Diaby, non. Pas d'euros, ni de Coupe du Monde. Voilà pour l'avis de Barcola de Simon. Dans un instant, tiens, on va lancer la soirée Ligue 2. On va parler du climat autour des Girondins de Bordeaux. Nico Pollarci sera avec nous. Ça tombe bien, il est au stade. Bordeaux d'ailleurs qui mène 1-0 face à Dunkerque. Catastrophe, crise à Bordeaux. Plus 1 euro pour payer les jardiniers et pour cultiver les pelouses. Reste avec nous, c'est CRMC, c'est Génération After. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Simon Dutin, Walid Acharchour et Damien Perkis, on est ensemble jusqu'à 22h hein, dans 7-8 minutes. Daniel Riolo, Gilbert Brébois et Flo Goutreau sont là pour l'After, plus Sébastien Bassong. La Ligue 2, c'est important ce soir, c'est la 34e journée, on approche du terme de la saison. Auxerre face à Laval, Fred Joly, c'est reparti.
Oui, depuis 3 minutes en seconde période et la JO Auxerre retrouvée, la JO Auxerre qui a eu un petit doute après deux défaites consécutives. Eh bien, les Bourguignons se sont remis en question et ils mènent 3-0 avec ce but de l'Omami contre son camp, le doublé de Haillé et les Lavallois diminués puisque Bobichon a été expulsé après une grosse faute sur Haillé. Les Lavallois sont réduits à 10 et Auxerre mène 3-0.
Guingamp, Angers, Xavier Grimaud.
C'est reparti depuis 2 minutes, un partout entre Guingamp et le SCO. C'est le SCO qui a ouvert le score par Raoul Istoa, la grosse erreur de Denzo Basilio, l'égalisation plutôt logique de Baptiste Guillaume juste avant la pause. Angers qui pour l'instant maintient à distance Saint-Etienne qui fait match nul aussi, est tenu en échec ce soir. Mais attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de marge et cette première période n'était pas extraordinaire de la part du SCO. C'est un match assez équilibré, un partout, la 48e.
Edgar, sur les autres pelouses, est-il le début depuis le retour des vestiaires?
Eh bien, un instant, l'ouverture du score de Valenciennes face à Ajaccio, ça fait 1-0. Pour le reste, ça ne bouge pas, hein, le but du jeune Foué Ondoa qui ouvre la marque donc pour Valenciennes au retour des vestiaires.
Les autres scores sur les autres pelouses?
Alors, les autres scores, je vais te dire ça tout de suite, avec toujours 0-0 entre Bastia et Concarneau, 1-0 pour Caen face à Annecy, 0-0 Grenoble-Saint-Etienne, 3-1 pour Amiens sur la pelouse de QRM, 1-0 pour Rodez face au Paris FC, 1-0 pour Pau face à 3, et donc Valenciennes mène 1-0 face à Ajaccio.
Et le but magnifique de Zurico à Bordeaux contre Dunkerque, Nico Pollarci.
Ouais, le deuxième but bordelais, il est magnifique, ils ont su exploiter dès la reprise de cette deuxième mi-temps une perte de balle de Dunkerque, la passe dans le dos de Vipotnik pour lancer dans l'intervalle Zurico Davitashvili qui sur le côté gauche de la surface vient fixer Koné, le gardien dunkerquois, et il met un amour de ballon piqué, très beau but. Sixième but de la saison pour Zurico Davitashvili. Bordeaux qui se donne de l'air, 2-0. Bon, ça sent le sapin quand même pour Dunkerque parce qu'ils n'ont rien montré, les Dunkerquois. Et là, les Bordelais à 2-0. On se dit que ça peut aller très vite. Juste, on suit cette action peut-être avec ce ballon lancé dans la profondeur. C'est Alexis Pitou. Ça va être bien défendu par le capitaine de Dunkerque. 2-0 pour les Girondins.
Ça sent le sapin pour Dunkerque, ça sent le maintien pour Bordeaux.
On va avoir une grosse conférence de presse de Riera. Là.
Ah ouais, parce que là, je pense qu'il a réinventé le football ce soir.
Le post Instagram de Riera ce soir.
J'espère qu'il
va nous expliquer comment il a battu Dunkerque.
Comment c'est pas,
je vais le liker.
Hein. Comment c'est pas comme ça là.
J'espère que Pep, que Jürgen, que Thomas, Kounaï regardent le match ce soir et prennent une leçon.
Je vais partager la story moi.
Parce que là, bon après, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas hein, selon lui. Hein. Pas dévoiler tous les secrets non plus.
Exactement.
Tiens Nico, justement, reste avec nous. On parle de Bordeaux un peu, il nous reste 3 minutes, pas mal de messages. Tiens, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, on nous dit il va bientôt falloir ouvrir une cagnotte pour les Girondins. Une cagnotte Litchi. Rappelons, hein, Daniel en parlait hier, l'entreprise prestataire chargée de l'entretien du terrain des professionnels à Oyon, son entraînement n'a pas été payé depuis plusieurs mois. C'est ça, ouais. Nico ?
Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est pas les seuls. Hein. Il y a aussi les médecins, les vacataires. Vous savez que dans un club de foot, il y a des kinés qui sont staffés, qui sont salariés du club, mais il y a aussi au Girondin des médecins vacataires qui ont leur cabinet, mais qui sont des intervenants très très réguliers du club. C'était le cas du médecin des Girondins historiquement, Thierry Delmeul à l'époque, par exemple. Et bah, ces personnes-là aussi n'ont pas été payées, donc du coup, ils ont fait grève. Ils sont plus là. Ça a été le cas hier pour les jardiniers, Daniel le disait, qui ont déserté le Hayan. En fait, ils sont partis avec leur tondeuse. Ils n'étaient pas c'est payés incroyable. Depuis plusieurs semaines.
Donc, attends, le mec qui a la photo de ça, des jardiniers qui partent avec la tondeuse, tracteur et pelle. Ouais, c'est extraordinaire quand même.
Ouais, c'est assez dingue. Il n'y a pas de retard de paiement pour l'instant pour toute la partie sportive et administrative. Donc voilà, Gérard Lopez, en fait, ce qu'il fait, c'est que les finances sont très, très, très tendues. Il remet au pot vraiment pour que le club survive. Mais on se demande comment les Girondins vont faire déjà pour boucler cette saison. Si ça en reste là, et puis je vous parle même pas de l'été prochain. Il annonce toujours qu'il va faire venir des investisseurs au capital. Le problème, c'est que les offres qu'il a eues, il les a refusées, les offres assez solides. Donc voilà, on a du mal à y voir clair. Enfin, on se demande même s'il y a une stratégie avec Gérard Lopez.
Lui parles un peu ou pas en off ou pas du tout? Parce que cet homme-là est muet, quoi.
Je vais pas vous mentir qu'on n'a pas les meilleures relations du monde avec Gérard Lopez. Nous, RMC et
personne, parce qu'il parle à personne.
Et l'entreprise qui communique, si, il a certains canaux de communication via certains journalistes.
Les fameux canaux.
Il y a une entreprise qui gère sa communication, Havas aussi, qui nous répond. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de voir Gérard Lopez.
Il y a une boîte qui est payée pour gérer la communication de Gérard Lopez. C'est extraordinaire. C'est emploi effectif.
Et puis c'est une entreprise qui était payée assez grassement.
Ah d'accord, ok.
C'est génial.
Voilà. Ah oui, c'est.
Ils ont réduit le contrat. Ils ont fait ça quand Bordeaux était en Ligue 1. Ils ont bien évidemment été beaucoup moins payés, cette boîte, quand Bordeaux a été rétrogradé en Ligue 2. Mais ils conseillent.
Mais pour payer les mecs qui arrosent la pelouse, il n'y a plus personne, quoi.
Des gars qui tournent la pelouse.
Du coup, il y a l'histoire de la tondeuse. Mais je vous passe les détails.
La tondeuse,
le centre de formation, il n'y a plus aucun frais qui est engagé pour le centre de formation.
Ah oui, c'est incroyable.
Il n'y a plus rien qui se passe. Il y avait un problème de pompe pour arroser les terrains. Les pelouses, c'est quand même l'outil principal d'un footballeur. T'as pas de pompe au Hayan qui marche depuis plusieurs semaines, depuis quelques mois.
Donc, parce qu'elle est cassée, c'est ça?
Elle est cassée et personne ne la répare. Ah,
c'est dur de la réparer.
Ouais, c'est voilà. En même temps.
Donc, c'est très très difficile. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, les joueurs, eux, continuent à être payés. Qu'ils se battent, hein, à l'image de ce soir, voilà, ils lâchent pas, ils sont dans leur truc, mais même Riera, quand on parle de son avenir, compliqué pour lui de se projeter, c'est pas du tout le projet qu'on lui a vendu quand il est arrivé en octobre.
Ouais, c'est pas le projet qu'il nous a vendu lui aussi, hein, dans le jeu. Okay.
Non, mais je vais pas le défendre, il a d'énormes défauts, Albert Riera, il s'est mis toute la Ligue 2 à dos dans sa communication, même nous, des fois, quand on assiste à ses conférences de presse, c'est un peu lunaire, on se dit, mais le gars, il est hors sol, avec l'effectif qu'il a, il nous parle de trucs, tu vois, des comparaisons avec Manchester City, t'es là, après la Ligue des champions, ces petits chocs thermiques, hein, à chaque fois. Mais c'est pas ce qu'on lui a. On lui a dit que quand il allait arriver cet hiver, il y a des joueurs allaient arriver. Et en fait, Bordeaux a été placé sous encadrement de la masse salariale, pas de vente de la part de la DNCG. Donc voilà, il a pas pu faire ce qu'il voulait non plus. C'est pas ultra facile de bosser non plus pour lui. Hein.
Ce sera évoqué dans l'after tout à l'heure, hein, notamment le cas Albert Riera qui nous régale en conférence de presse. Peut-être ce soir, il va nous régaler encore une fois.
Ah, moi, je suis devant là. Je sors de la.
C'est déjà un événement maintenant.
Ah, moi, je suis devant moi.
Bon, ce sera
moi, j'attends la conf où Riera va lâcher ses joueurs. Et là, ça va être exceptionnel. Ça peut arriver d'ici la fin de la saison. En mode Gustavo Poyet quand il avait pété un plomb sur les dirigeants.
Magnifique Poyet.
Moi, je vous dis que si jamais ça se passe mal, alors Riera n'est pas du tout comme ça. Il défend ses joueurs depuis le début. Et pourtant, des fois, tu sens qu'il en a gros sur la patate. Mais le jour où il décide de tout lâcher, ça peut être exceptionnel.
J'imagine qu'à Bordeaux, on est à regretter Francis Gillot. L'époque Francis Gillot. Qui avait des bons résultats. Hein.
Au final,
un peu moins Gourvennec quand même. Damien, merci.
Ah, Gourvennec, si, il a des bons résultats.
La première année, Gourvennec.
Oui, première année, ça allait.
Ouais. Gourvennec, il se fait jeter alors qu'il est 8ème de Ligue 1. Hein. Ouais.
Non, mais rafraîchis-lui la mémoire, Nico. Il a oublié.
Pour les Girondins. Ouais, vous avez
Damien,
oublié.
Merci, Nico. Toujours 2-0 pour les Girondins. Damien, merci beaucoup.
Merci.
C'est un plaisir de t'accueillir.
Très belle première.
Ouais, bon.
J'aime beaucoup.
Bien, facile.
Ouais.
On sent le mec écouter l'after.
On va le garder.
Voilà. Merci Simon, merci Walid. Dans un instant, merci Gilbert, Daniel et Flo pour l'after. Jusqu'à minuit sur RMC. Bonne soirée à tous.
Salut, ciao.
Génération After.